Bonsoir à toutes et à tous. C'est marqué dans Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Vav. Yehoshua ben Perachia, Omer. Yehoshua, fils de Perachia, il a dit: Aselecha Rav, fais-toi un Rav. Kanelecha Chaver, acquiers-toi un ami pour l'étude. Ve'avedan et kol adam le kavzechut, et juge tout homme du bon côté. Tout le monde connaît cette notion du lekavzechut. Du fait qu'on peut toujours avoir un double regard sur quelqu'un, ou les kav chova du mauvais côté, ou les kav zechut du bon côté. Et là, les chachamim viennent et nous disent: Avedan et kol adam les kav zechut, juge tout homme du bon côté. Alors évidemment, on pose la question: qu'est-ce que ça veut dire juger du bon côté? Parce que même le langage lui-même, il est un peu dur. Ça va? Mouvement là. Même le langage lui-même, il est un peu dur. Avedan et kol adam le kav zechut, ça veut dire tu dois juger tout homme du bon côté. Mais en vérité, déjà la question elle se pose: qui t'a dit qu'il fallait juger? Donc tu vois une situation, tu vois quelqu'un en face de toi, on va voir plusieurs catégories de cas, qui te fait quelque chose ou qui te fait rien, tu es concerné ou tu n'es pas concerné. Et une chose qui est ambiguë, tu ne comprends pas. Alors la Torah dit: écoute, quand tu ne comprends pas, quand tu n'es pas sûr, juge du bon côté. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire simplement regarde le côté positif? Ou ça veut dire que tu dois juger, mais du bon côté? Mais la vraie question, la question de fond, c'est comment tu te permets de juger? De quoi tu te mêles? Oui. On dirait que les chachamim, ils ont dit: c'est sûr que tu vas juger. Maintenant, si déjà tu dois juger, alors juge du bon côté. Mais laisse tranquille. Là, il y a un type en face de toi, il fait quelque chose. Bon, c'est sa vie. Lui, il a sa vie, toi, t'as ta vie. Tu dis: ouais, mais c'est pas normal. Vous savez comment on est? On est tous les gendarmes du monde entier. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, combien de fois les gens me disent: Rav, est-ce que vous trouvez normal? Je dis: excusez-moi, c'est votre frère, c'est votre mari, c'est votre père. Non, c'est comme ça, mais je posais la question à titre culturel. Ben, si vous avez des questions à titre culturel, posez-vous des questions sur vous. Il n'y a plus de questions, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Avedan et kol adam le kav zechut. Tu dois juger du bon côté. Première question, qui t'a dit qu'il fallait juger? Deuxième question, quand on dit qu'il faut juger du bon côté, est-ce que ça veut dire qu'il faut être nia? Il faut s'aveugler, il faut dire non, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, il n'y a que des tzadikim, hasvei shalom. Ou alors des fois, il ne faut pas s'aveugler non plus. Il te ment, elle te ment, elle triche, elle vole. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, les caves routes. Ah non, hasvei shalom, c'est pas. Faut pas juger, non, peut-être. Non, c'est vrai, bon, c'est vrai, elle est partie avec la caisse. Et alors? Des fois, il faut pas se juger d'après les impressions. Comment les impressions? Elle est partie avec la caisse, c'est la caisse, c'est tout, elle est partie avec la caisse. Donc, est-ce que ça veut dire que juger du bon côté, ça veut dire qu'il faut se boucher les yeux? Compliqué. Alors, pour comprendre tout ça, il y a une Gemara dans Shabbat, Kuf Kav Zayin, donc c'est facile de vous rappeler, Daf Kuf Kav Zayin, c'est le coup du Lekav Zechut, ouais, Amud Bet, elle amène trois cas de jugement positif, trois cas où les Chachamim te montrent comment est-ce que quelqu'un il doit juger l'autre. Alors, le premier cas, c'est quoi? La Gemara raconte, il y avait un homme qui est parti pour aller travailler pour vendre sa force de travail. Il a travaillé pendant 3 ans. Donc il a travaillé chez quelqu'un dans une propriété. Donc il connaissait bien la propriété. Et le type avait des champs, il avait des animaux, il avait des biens. Au bout de 3 ans, il lui dit: voilà, est-ce que tu peux me payer pour les 3 ans de travail que j'ai fait? Et le type, au bout de 3 ans, il lui dit: j'ai pas d'argent. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On achète un fusil. Bah, 3 ans. Pas 3 jours, 3 ans. Parce qu'il était payé par période. Bon, il dit: j'ai pas d'argent. Il dit: bon, alors, c'est pas grave, est-ce que tu peux me donner un terrain? Il dit: écoute, j'ai pas de terrain. Il dit: bon, est-ce que tu peux me donner du bétail? Il dit: j'ai pas de bétail. Il dit: bon, tu peux me donner des ustensiles, je sais pas, des objets. Si tu peux pas me donner du bien immobilier, donne-moi du bien mobilier. Il dit: j'en ai pas. Donne-moi des fruits, de la récolte. J'en ai pas. L'agma a dit, il est parti, mais pas henefesh, avec la rumba. Il est rentré chez lui. En plus, c'était pour les fêtes. Imaginez-vous, sa femme, ça fait 3 ans qu'elle l'attend, il vient, wello. Ça veut dire, maintenant, il va se prendre la deuxième couche, maintenant. Tu t'es fait avoir, t'es un pauvre type. Bon. Déjà, il s'est pris une, il va se prendre la deuxième maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit la Gemara ? Qu'est-ce qu'il a fait le patron ? Les fêtes sont passées. Il a pris le salaire, les 3 ans de salaire, et il a pris 3 ânes remplis de bonnes choses, et il a été voir l'ouvrier, et il lui a donné. Il a dit, voilà ta paye, voilà tout. Ils sont assis à table, ils ont mangé, tout ça. Il a dit, dis-moi, quand tu m'as demandé ta paye et que je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, de quoi tu m'as soupçonné ? De quoi je t'ai soupçonné ? Que t'étais un pourri, que t'étais un voleur, que t'étais un truand. Qu'est-ce que je vais te soupçonner ? Regardez ce que dit la Gemara. Où ça commence ? Je n'ai pas voulu tout vous lire en hébreu. Il a dit, quand je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé ? Il a dit, j'ai pensé peut-être qu'il s'est présenté à toi un business et tu as eu besoin de toutes tes liquidités, tout ton argent liquide, tu l'avais placé dans un business. Il dit, bon. Il dit, quand je t'ai dit que je n'avais pas de champ, qu'est-ce que tu as pensé ? Il dit, j'ai pensé peut-être que tu as loué le champ à quelqu'un d'autre, tu ne pouvais pas me donner le champ. D'accord. Quand je t'ai dit que je n'avais pas de fruits, qu'est-ce que tu as pensé ? Il dit, j'ai pensé peut-être parce que tu n'as pas prélevé le maaser, tu n'as pas prélevé la dîme, et tu as pensé que moi, je ne vais pas le faire. Tu as eu peur de me mettre dans un cas de lifneiver, ça veut dire de. Comment on dit en français ? De mettre un obstacle devant mes yeux. Donc tu ne m'as pas donné des fruits. Quand je t'ai dit que je n'avais pas d'objets, de biens mobiliers, qu'est-ce que tu as pensé ? Il dit, j'ai pensé peut-être que tu as offert tous tes biens au temple, au Beth Amikdash. Il a répondu à Marley, à Avoda, ça veut dire par le service divin, c'est une manière de jurer, par Hachem. Kach aya, c'est comme ça. Idarti kol nechasai bishvil urkenos beni. J'avais fait un éder sur tous mes biens à cause de urkenos beni. Bon, c'est toute une histoire. Chez l'or asak batora pour pas qu'il étudie la Torah. Ou que chez Bati et tsel chaveri bedarom. Bon. Il avait fait un vœu pour interdire l'utilisation de tous ses biens. Et donc, il pouvait rien lui donner. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas payé. Et lui, il lui a dit, Veata, et toi, Keshem Shedantan, il est srout, Amakom Yadinotra, il est srout. Et toi, de la même manière que tu m'as jugé du bon côté, Hachem aussi, il va te juger du bon côté. Il lui a fait une bénédiction. Il a dit, toi-même, tu m'as jugé positivement, Hachem aussi, il va te juger positivement. Alors, la première question. Plusieurs questions. Première question, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Maintenant, un type, c'est un voleur. C'est ça, un voleur. Tu travailles chez quelqu'un, ouais, pendant 3 ans. Donc, tu sais très bien qu'il a des biens, tu sais très bien qu'il a de l'argent, tu sais très bien qu'il a des objets, tu sais très bien qu'il a tout. Maintenant, le type, il te dit, j'ai pas. Mais c'est quoi les surprises ? Je travaille tous les jours, donc tous les jours, tu sais que dans 3 ans, tu vas me payer. Tous les jours, tu dois y penser. Normalement, moi, j'ai le souci de bien faire mon travail en tant qu'employé, mais toi, tu dois avoir le souci d'avoir la paye. Tu vas voir ton patron, tu lui dis, quand est-ce que tu me payes ? Il te dit, est-ce que je suis prophète ? T'es un type dangereux, toi. Tu dis, bon, t'as pas eu de mazal cette année ? Ce mois-ci, c'était un peu nul, peut-être le mois prochain. Si Dieu veut, prie, mon fils, prie. Comment prie ? Paye ! Toi, tu pries. Tu payes et tu pries. Non. Toi, tu dis non. L'autre, il a dit ben non. Alors, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que lui, le pire qu'il a pu imaginer, c'est ça ce qui s'est passé. Pourquoi dans le Lake of the Root, pourquoi dans le jugement positif, ouais, c'est toujours le pire que tu peux imaginer qui va arriver. Par exemple, quelqu'un, il n'arrive jamais en retard. Jamais. Si une fois il vient en retard, tu peux imaginer le pire. Crise cardiaque ou le lave à savoir. Maintenant, si quelqu'un il vient tout le temps en retard, quand il vient à l'heure, tu te poses des questions. Tu te dis, il doit avoir une idée derrière la tête ou là, quelque chose qui le fait marcher plus vite que d'habitude. C'est pas possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que ça veut dire ici, juger positivement. Mais on parle d'un voleur. Et vous savez que dans la halakha, au niveau de l'argent et tout ça, ça n'existe pas. Quelqu'un qui doit de l'argent. C'est quoi positivement ? Quelqu'un il t'emprunte, par exemple, tu vas chez un milliardaire. Tu lui empruntes 10 000 euros. Après, tu lui dis, je te rends la semaine prochaine. Tu as 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Après, il vient et tu lui dis, rends-moi l'argent. Tu lui dis, je t'en prie, qu'est-ce que c'est pour toi 10 000 euros, franchement ? Qu'est-ce que c'est le marchepied de ton 4x4 ? Il coûte 10 000 euros. Qu'est-ce que tu me casses la tête avec 10 000 euros ? T'as pas honte ? Je vais t'attaquer pour harcèlement, ça fait 2 fois que tu m'appelles. C'est pas ton problème. Toi, t'as emprunté l'argent, tu rends l'argent. Tu dis, mais l'autre, il peut pas me voir positivement. Il sait pas dans quelle galère je suis. Maintenant, toi, tu exiges que l'autre, il te voit positivement. Mais déjà, pour te prêter de l'argent, il t'a vu positivement avec ta tête d'escroc. Maintenant, tu veux quoi, hein ? Qu'il te voit positivement et qu'il efface la dette. Mais tu dois cet argent. Maintenant, que quand tu lui rends l'argent, lui, s'il veut, il te dit « garde-les », c'est une chose. Mais quand toi, tu anticipes sur le fait qu'il va te les rendre et tu dis « de toute façon, j'ai pas besoin de lui payer puisqu'il va me les rendre », ça s'appelle du vol. C'est ça le vol. Tu rentres chez l'épicier, tu manges une pomme. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, franchement, quand vous avez faim, vous mangez. Ben moi, quand j'ai faim, je mange. Maintenant, si vous avez demandé, donnez-moi une pomme, vous m'auriez dit non. Alors que vous venez de donner 2000 euros au Téléthon, vous n'êtes pas capable de donner une pomme. Alors j'ai mangé la pomme. J'ai vu que vous avez une tête de poire, j'ai pris la pomme. C'est un voleur. C'est un voleur. Donc qu'est-ce qu'il veut la Gemara maintenant? Un type, il travaille 3 ans chez quelqu'un, ouais, et l'autre, il ne le paye pas, et lui, il doit imaginer que ce qui est arrivé, c'est pas grave, et que l'autre, il n'a pas fait exprès. Mais le pire, c'est que c'est exactement ce qu'il a imaginé, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'ici, on donne une leçon, c'est que quelqu'un, dans le jugement, les kafs de route, c'est-à-dire que moi, dans le regard que j'ai sur l'autre, des fois, je dois aller très très loin pour trouver le positif. Très loin. Mais ça répond toujours pas à la question qu'on a demandé tout à l'heure, qui t'a dit qu'il fallait juger. Moi, j'aurais dit non, va au prud'homme, tout de suite. Veux pas payer, d'accord, 2 témoins, les huissiers, hop, directement au tribunal. L'autre, non, il a rien dit. Hanin, il a rien dit. C'est pas grave, c'est pas... Tu veux pas me payer? 3 ans. Ça fait rien, je vais... Au lieu de mourir de faim, je vais mourir d'un cancer, d'angoisse. Il rentre chez lui, comme ça, tranquille, et l'autre, il vient, il lui amène sa paye. L'histoire, elle est bizarre. Deuxième chose qui est beaucoup plus bizarre, c'est que il lui a dit, il lui a fait une bracha. Il lui dit, de la même manière que toi, tu m'as jugé positivement, Hachem, il va te juger positivement. Alors, première question, je te trouve un petit peu bizarre pour te substituer à Dieu, pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. D'accord? Tu dis de la même manière que tu m'as jugé du bon côté, Dieu il va te juger du bon côté. Mais attends, Dieu il sait ce qu'il a à faire, de quoi tu te mêles toi? Deuxièmement, ça n'a aucun rapport. Maintenant, envers Dieu, tu as des obligations. Envers l'homme, tu as des obligations. Donc, tu as tes obligations de juger positivement. Disons, tu as jugé positivement, d'accord. Maintenant, Dieu, lui, il a d'autres obligations. Lui, il te regarde, tu fais les mitzvot, tu fais pas les mitzvot, tu manges kasher, tu mets les tefillin, tu fais shabbat. Maintenant, quelqu'un, il met pas les tefillin, il mange pas kasher, il fait pas kippour, il fait rien. Mais, il juge positivement les autres, voire de humanistes. Donc, Hachem, il dit, puisque toi, tu as jugé les autres positivement, donc moi, je vais juger positivement. Mais quel rapport? Il y a 2 comptes maintenant qui n'ont rien à voir. Il y a un compte qui s'appelle les mitzvot envers Hachem, et il y a un compte qui s'appelle les mitzvot envers l'autre. Maintenant, il y a une mitzvah envers l'autre, d'être sympathique et cool et ouvert d'esprit, alors tu fais ce que tu as à faire. À part ça, tu n'as pas mis les téfilines. Alors tu dis à Dieu, c'est pas grave. On va prendre d'un compte qui est créditeur pour un compte qui est déficitaire, et on va combler le compte. Mais qui ne comprend pas? Mais non, moi, comme toi, t'es gentil avec ton copain, on va compter comme si t'avais mis les téfilines. Quel rapport, maintenant? Tu n'as pas mis les téfilines, et pour soi, tu vas recevoir une bonne derba. Et à part ça, tu vas être récompensé parce que t'as été gentil avec tes copains. Alors toi, tu dis à Dieu, on pourrait pas faire un petit compromis. Tu me fais une avance sur bénéfice des mitzvot que j'ai fait. Et avec ça, ça rembourse le déficit qui me garantissait le gainam. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Ça n'a aucun rapport. Comment on peut mélanger les comptes? Ça, c'est les obligations que j'ai envers les hommes. Et ça, c'est les obligations que j'ai envers Dieu. Comment un compte, il peut combler l'autre? Rien à voir. Après, la Gemara, elle amène un deuxième exemple, qui est déjà plus ambigu. Tanou Rabbanan. Ma'aseh bechassid echad. Il y a une histoire avec un chassid. Alors, quand on dit un chassid, à l'époque de la Gemara, ça veut dire que c'est un très grand tzaddik. Shepada riva ahat bat Israël. Vous savez qu'il y a une des 613 mitzvot, c'est que quand il y a quelqu'un qui est pris, kidnappé, il y a une mitzvah de ramasser l'argent de la rançon et de payer l'argent de la rançon pour libérer la personne qui est kidnappée. D'accord. Donc, lui, il a voulu faire cette mitzvah. Il y avait une jeune fille qui était kidnappée. Il a ramassé l'argent. Il a été payé au ravisseur pour récupérer. Pour libérer la jeune fille. Très bien. Bon. Et bien sûr, il devait la ramener dans sa famille. Un truc normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a racheté cette jeune fille. Et puis après, ils ont été sur le chemin. Il y avait 2 ou 3 jours de marche. Et il y avait une nuit, disons, il fallait dormir quelque part. Ils ont été dormir dans une auberge. Et le chassid, il était avec ses élèves. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait dormir la jeune fille à côté de lui, dans une pièce. Et il a fait dormir les élèves dans une autre pièce. Attention, c'est un cours sur voir l'autre positivement. Donc, je vous demande de faire un effort. Ouais. moi aussi j'ai fait un effort, je suis comme vous, je lis de la Guémara. Mais si la Guémara l'a écrit, c'est que bon, elle nous met à l'épreuve quelque part. Est-ce que je vais dire, eh ben, un homme c'est un homme, ou un chien, c'est marqué. C'est marqué qu'il a fait dormir la jeune fille à ses pieds, à côté de lui, et il a fait dormir les élèves d'un autre côté. Le lendemain, matin, Yarad, il est sorti de la chambre, il est descendu, Vetaval, il a été au Mikvé. Alors pour ceux qui manquent de connaissances, à l'époque de la Guémara, il y avait un décret qui était fixé par Ezra, que si quelqu'un a une relation intime, il n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'il n'a pas été au Mikvé. D'accord ? Donc il a été au Mikvé, et ensuite il a enseigné la Torah à ses élèves. Attention. Alors je répète l'histoire pour ceux qui n'ont pas compris. Il a payé la rançon, il a sauvé une jeune fille, ils ont été dans une auberge, il a fait dormir ses élèves d'un côté, il a fait dormir la jeune fille dans la même pièce que lui. Le lendemain matin, il a été au mikvé et ensuite il a enseigné la Torah. Il s'assoit avec ses élèves, qu'est-ce qu'il leur demande ? Regardez comment il demande, naturel, de libérer. Bécha'a chez Ishkafti à Tahat Miraglotai. Bema Hachatuni, quand vous avez vu que j'ai fait dormir la jeune fille à côté de moi, de quoi vous m'avez soupçonné ? Tu nous donnes le bâton pour qu'on te coupe la tête. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est de la Guémara ça, vous comprenez ? C'est de la Guémara. C'est pas ici Paris ou là, j'en sais rien. Ouais. C'est la Guémara. Oh ! Qu'est-ce qu'il a dit la Guémara maintenant ? On parle d'un chassid. Un grand rave. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, la Gemara dit, sache que le Kaf de Chout, c'est pas pour les pauvres types, c'est pour les gens bien. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc toi, t'as un problème. On veut te dire, tu sais, les Kaf de Chout, on n'aura pas toujours besoin pour des gens que tu sous-estimes. Peut-être un jour, t'en auras besoin pour des gens que tu surestimes ou que tu estimes tout court. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, mais j'ai vu mon rave, je l'ai vu sortir du cinéma samedi. Et quel cinéma? Un cinéma, pour ceux qui font de la formation en gynécologie, vous savez, c'est des endroits spécialisés. Alors comment tu vas juger positivement? Et la Torah, elle t'a dit, avec Dan et Kolak, Dam le Kavzechout, tu dois juger tout homme du bon côté. Donc le maître, tranquillement, il aura posé la question. Alors, quand vous avez vu que j'ai enfermé la jeune fille avec moi, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai honte de vous dire ce que j'ai pensé. C'est même interdit d'avoir ce genre de pensée. Regardez ce qu'ils ont répondu les élèves. Ça, c'est des tzadikim. Ils ont dit, on a pensé que peut-être que parmi nous, parmi les élèves, il y en a un qui a une tendance un petit peu syndrome de Don Juan chronique. Et le rav, il a eu peur de laisser la jeune fille. Alors, il l'a fait dormir à côté de lui. Il faut aller la chercher, celle-là. Après, il a dit, bon, d'accord. Mais quand vous avez vu qu'en sortant de la chambre, j'ai été au mikvé. Ça a contracté les probabilités, là. Alors, les élèves, ils ont dit, ben, on a pensé que peut-être que le rave, à cause de la fatigue du chemin, il a eu un accident nocturne, un écoulement nocturne, et c'est pour ça qu'il a dû aller au mikvé. Le rave, il a répondu, exactement ce que vous avez imaginé, c'est ça qui s'est passé. Et de la même manière que vous, vous avez jugé du bon côté, Hachem, il va vous juger du bon côté. On est un peu sceptique. Mais qu'est-ce qu'on va faire à Botaï? Je vous dis que la grandeur de quelqu'un et la grandeur de l'épreuve, elles correspondent. Maintenant, la grandeur de l'attachement que tu as à quelqu'un et la grandeur des doutes que tu as sur lui ou sur elle, ils seront à la hauteur. Il faut comprendre ça. Je ne sais pas si vous me suivez. On a fait ensemble le cours sur le veau d'or, vous vous rappelez ou non? Je vous ai déjà dit que quand vous êtes en face d'une très grande potentialité, il y a toujours un grand veau d'or qui se propose devant, d'accord? Donc c'est pareil maintenant. Je comprends pas, t'es marié avec cette femme depuis 10 ans. Alors elle a une manière d'agir un peu bizarre, où il y a un type qui lui court après, ça y est, tu penses qu'elle a fait adultère. Maintenant, prends le problème à l'envers. Pourquoi tu imagines une chose pareille? Dis parce qu'elle est belle et qu'elle est un petit peu trop cool avec les gens, et puis elle fait la bise à n'importe qui, et puis elle s'habille, enfin, ou elle se déshabille, c'est pareil pour elle. Donc j'ai peur. Comprenez ou non? Souvent les gens ils veulent pas que leur femme soit pudique, mais en même temps ils veulent qu'elle soit très sexy, mais à part ça ils trouvent qu'elle attire un petit peu trop les regards. Mais comment veux-tu? Tu veux que tout le monde la regarde et en même temps tu veux que personne ne la voie. Alors, c'est compliqué d'être une femme moderne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut être Eshet Ha'il et Claudia Schiffer, les deux. C'est dur. Comment tu vas faire? Donc l'homme, il a des doutes. Pourquoi il a des doutes? Tu sais pourquoi il a des doutes? J'explique pourquoi. C'est très simple. Parce que étant donné qu'il a quelque chose de très grand à construire avec sa femme, donc on lui envoie un veau d'or pour qu'il se prenne la tête pour des bêtises. Maintenant, c'est souvent les femmes les plus intouchables que le type il a des doutes dessus. Pourquoi? Pareil pour le mari, hein. Moi, je dis du côté de la femme, c'est pareil du côté du mari. Pourquoi? Parce que comme tu as quelque chose à construire de très très important, le mieux pour détruire, c'est de rendre les choses fragiles. Et qu'est-ce qui rend le plus les choses fragiles? Vous croyez, à votre avis? La certitude ou le doute? Le doute. Ça travaille. Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? C'est qui ce numéro-là? C'est quoi ce numéro qui s'affiche? C'est qui Jacqueline? Non, Jacqueline, c'est Jacques, mais comme je l'ai toujours en ligne, je l'appelle Jacqueline. C'est dur. C'est très dur. Comment tu vas imaginer? Vous comprenez ou non? Moi, j'en ai au téléphone. Ah bah vous savez, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé la liste de téléphone. J'ai demandé le détail. J'ai trouvé, 128 fois, tu as appelé cette bonne femme. Et c'est une bonne femme qui répond, j'ai appelé, alors, c'est qui? Tu dois te poser la question, pourquoi ça arrive une chose pareille? Ici, c'est marqué. Les gens en qui tu dois accomplir la mitzvah de juger positivement, c'est des gens avec qui tu as une épreuve de juger positivement. Maintenant, imaginez maintenant ces élèves-là, ils sont avec leur rave. Un chassid, comme ça, waouh, un tzadik. Maintenant, il a fait dormir une jeune fille à côté de lui, oh! Donc d'un côté, tu peux dire, eh ben super, comme ça, si moi j'ai envie de faire une petite dérive samedi soir, je pourrais toujours dire, mon rave, il a fait la même chose. D'un autre côté, je dis peut-être le contraire, peut-être qu'il y a une autre explication. Par exemple, que parmi nous, il y a un type en crise qui a besoin de révéler ses capacités. Alors, donc j'ai deux côtés, où je peux regarder comme ça, où je peux regarder comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, mais quand je l'ai vu sortir du mikvé, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien imaginer quelque chose. Il y a une réponse. Rabota, il y a toujours une réponse. Comprenez ou non? Il y a toujours une réponse. Le problème, c'est est-ce que cette réponse, je dois l'accepter ou la refuser? Il s'inscrit à l'intérieur de moi un safek, un doute. Et dans ce doute-là, je peux briser des choses énormes. La Torah, elle t'a dit... Regarde du côté positif. Et je vous dis, moi, je connais beaucoup de gens, il ne s'est rien passé. Ils ont été jusqu'au divorce, et ils ont divorcé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincu qu'il ne s'est rien passé. Mais la phobie, elle a fait son travail. Et quand la phobie a fait son travail, le pire, c'est que l'Yetzirara, il donne des signes. Je ne sais pas si vous me suivez. Par hasard, le mari, le type que ton mari t'a soupçonné, par hasard, cette année, il était à Joint les Pins. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a loué juste en face. Mais je t'ai juré sur la tête de ta mère que j'ai rien fait. Mais pourquoi il est là? Par hasard, il a crevé un pneu. À qui il emprunte la voiture? Par hasard, il est venu dans ma société pour faire placer des fenêtres. Par hasard. Alors, il cherche pas à rentrer dans la famille, celui-là? Maintenant, la pauvre fille, elle a rien fait. Khnina de khnina. Mais... Le Satan, il pose les jalons de la phobie du mari, ou du contraire, de la femme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, peut-être que toi, tu n'es pas convaincu de l'importance de la construction de ton couple, mais le Yetzirara, lui, il est convaincu de la destruction de ton couple. Donc il va donner des éléments pour. Il va travailler. Les gens disent, ah ben, donc, alors, Rav, vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est bien des signes. Des signes de quoi? Des signes qu'il y a un travail à faire. Bien sûr, des signes que le Yetzirara travaille, oui. Des signes que pour construire quelque chose, il faut faire des efforts, oui. Évidemment qu'il y a des signes. Est-ce que vous me suivez? C'est comme un mur, quand un mur penche. Vous pouvez imaginer qu'il va tomber, d'accord? Tu dis, mais pourquoi il va tomber? Le poids, la gravité, l'attirance du sol. C'est normal que le mur y tombe. mais c'est normal qu'on renforce le mur. Je dis, moi, je trouve que si un mur penche, c'est que quelque part, j'adore cette expression, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours les gens qui t'appellent Rabbi Chetrit, est-ce que vous ne trouviez pas que quelque part, ça veut dire... Je demande, mais il est où ce quelque part? Je voudrais le visiter, parce qu'il y a tellement de trucs dans ce quelque part, on met tout dans le quelque part. Quelque part. Donc c'est exactement pareil. Maintenant, tu prends le problème. Tu dis, moi, cette situation, c'est quelque chose d'important. Moi, cette personne, c'est quelque chose d'important. Moi, ce choix, c'est quelque chose d'important. Donc c'est normal qu'il y ait une épreuve. Maintenant, cette épreuve, elle m'oblige à juger positivement ou le contraire. Alors je dis, ah, bah si j'ai l'occasion de douter, ça prouve que c'est grave. Peut-être le contraire. Peut-être que si tu as l'occasion de douter, c'est parce que l'Yetzer a fait son travail pour que tu sois mis à l'épreuve. Alors comment tu vas savoir? Alors maintenant, ils viennent les Chachamim, ils te disent, juge du bon côté. Là, les élèves, la Torah leur a dit, jugez du bon côté. Ils ont jugé du bon côté, mais c'est vrai que c'était dur. C'était dur. Ouais. Alors prends le problème à l'envers. Si tu as un rave incroyable et que tu as quelque chose à prendre de lui, et que le Satan, il veut t'écarter de lui, il faut qu'il trouve quelque chose qui soit aussi incroyable que la qualité de l'enseignement que tu peux recevoir de lui. Obligé. Alors qu'est-ce qu'il va trouver pour un chassid? Il va trouver une jeune fille qui va faire dormir à côté de lui la nuit. Et toi, ça y est, tu vas commencer à... C'est normal. Le problème, c'est que la Gemara, elle amène une troisième histoire pire. Vous êtes assise là ou assis, c'est bon? Regardez ce qu'a dit la Gemara. Un jour, où est-ce qu'il est celui-là? Pa'amahat, une fois, utzrar davar echad le talmide chachamim etzel matronita ahat shekol gdole romi metsui etzla. Un jour, les sages, ils ont eu besoin de quelque chose auprès d'une dame que tous les grands de Rome allaient chez elle. Donc je vous mets dans le contexte, pour les gens qui ont l'esprit pas assez tordu. Donc, les grands de... C'est-à-dire que les Chachamim, ils avaient un rôle spirituel, mais aussi un rôle politique, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de... Ça veut dire que ce qui gouvernait le peuple d'Israël, c'était les rabbins. Il n'y avait pas les députés ou les députés. Il n'y avait que des rabbins. Donc, maintenant, quand il y avait un complot, ou il y avait un malaise, ou il y avait une xéra, un décret... où il y avait un danger pour le peuple d'Israël, c'est les Chachamim qui avaient des manières à eux d'envoyer des émissaires pour déjouer les complots. D'accord? Parce qu'ils savaient qu'il y avait une haine. Chaque génération, Baruch HaShem, on a ce que Dieu nous donne, les dieux donnés, ouais, pour nous aider à faire Teshuvah. Ouais. Donc il y avait un danger, je ne sais pas quoi, et ils avaient besoin d'un renseignement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait aller voir une dame, et cette dame, elle recevait chez elle tous les grands de Rome. Donc vous avez compris que cette dame n'était pas pâtissière ou boulangère. Elle était, ils appellent ça le plus vieux métier du monde. C'est normal, parce que d'après eux, la mère déjà, c'était une... Alors imagine sa fille, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va aller voir cette femme? C'est honteux. C'est comme si tu dis, Baba Salé, s'il te plaît, tu peux aller rue Saint-Denis pour aller voir Ginette. Elle est toujours au 28 rue Saint-Denis. Tu peux pas la rater. Tu peux dire, Baba Salé, va la voir. Rav Shach, tu peux aller la voir. Laura Belubavitch, tu vas aller à Brooklyn dans les quartiers. Dans le Queens, là-bas, pour aller voir une fille qui connaît des renseignements sur le décret du roi. Qui c'est qu'on va envoyer? Regardez ce qu'a dit la Gemara. Amrou, mi yelech. Ils ont dit, qui va aller? Amar la M, Rabbi Yehoshua, ani yelech. Rabbi Yehoshua, il a dit, je vais aller. Maintenant, Rabbi Yehoshua, pour vous donner un petit élément, c'était celui qui devait remplacer Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était le Nassi d'Israël. C'est-à-dire, c'était le plus grand rave de tout Israël. C'était le tzaddik de tout Israël. Et c'est lui qui devait le remplacer quand il a été destitué. Bon, vous étudierez la Gemara dans Brachot, dans le quatrième Pérec, là-bas. On vous expliquera qu'est-ce qui s'est passé. Mais, donc c'était un très très grand tzaddik, Rabbi Yehoshua. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit la Gemara, Alach Rabbi Yehoshua ve Talmidav. Il a été Rabbi Yehoshua avec ses élèves. Donc vous imaginez Rabbi Yehoshua, d'accord? Grand tzaddik, avec son talit sur la tête, avec ses tfilines, parce qu'ils n'enlevaient pas le talit et les tfilines toute la journée. Avec tous ses élèves derrière lui, il marche dans la rue pour aller où? Aller voir mademoiselle Ginette Mzromba de son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara a dit Kevan Shegia le Petar Beta, lorsqu'il est arrivé à la porte de cette femme, Chalat Tefilav, il a enlevé ses tefilines. Birichou Karba Amot, à une distance de 2 mètres. Venichnas, il est rentré chez elle. Venaala Delet Bifneem, et il a fermé la porte devant eux. C'est-à-dire, il a laissé les élèves dehors, il a fermé la porte derrière lui. Chut, arrêtez. C'est une mitzvah de juger positivement. Donc faites un effort. C'est ce qu'on appelle les travaux pratiques. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Achar Sheyatsa, après qu'il est sorti, hop, il est rentré au mikvé. Oh là là. Là, tu peux pas nous faire le coup de la fatigue du chemin. Veshana les Talmida, et ensuite il a enseigné à ses élèves. Évidemment, il leur a posé la question évidente. Il leur a dit, quand vous avez vu que j'enlevais les téphilines, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est très dur. C'est très dur. Si vous allez dire, non, chas v'shalom, c'est un tzadik, c'est un tzadik. Le Rambam, il dit, Keshem, ce qui est marqué dans la Gemara, Keshem, chez Kol Agadol Michavero, Itzro Gadol Imeno, tout celui qui est plus grand que son ami, son Yetzera, il est plus grand que lui. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un il est grand qu'il n'a pas un Yetzera petit. Hein. Il peut avoir des mauvaises pensées, il peut avoir des mauvaises visions, il peut avoir des idées bizarres, il peut avoir des envies graves et dégueulasses. Et il est grand. Justement au contraire, plus il est grand, plus Yetzera, il attaque avec des choses graves. Le Gaon de Vilna, il dit En Adam Nitzul Mirun Ravera. Un homme ne peut pas échapper à la mauvaise pensée. Et le Gaon de Vilna, il étudiait toute la Torah, tous les mois. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous prenez une yeshiva de 1000 élèves qui étudient pendant 10 ans, ils n'arrivent pas à faire ce que le Gaon de Vilna, il arrivait à faire en un mois. Et il a dit Un homme ne peut pas échapper aux mauvaises pensées. Sous-entendu, même moi, je ne peux pas échapper aux mauvaises pensées. C'est normal. Parce que là où il y a la kedusha, la sainteté, par exemple dans la tête, automatiquement la touma, elle tape à la porte, elle dit laisse-moi rentrer. Alors celui qui augmente la kedusha, il augmente aussi l'épreuve de la touma. C'est comme ça. Ah, c'est pas une raison pour aller vivre dans la touma pour dire comme ça, chas v'shalom, je vais pas avoir des mauvaises pensées, je suis une mauvaise pensée. D'accord. Ça n'a rien à voir. Parce que tu es à la hauteur de ton épreuve. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle dit ici la Gemara? Il leur a posé la question, il leur a dit, quand vous avez vu que j'ai enlevé les téphilines, qu'est-ce que vous avez pensé? Regardez ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont dit les élèves. Ils ont dit, Kassavu Rabbi, il a pensé le Rav, Lo ikansu divrei kedusha bimkom tuma. Il ne faut pas que des objets de sainteté y rentrent dans un endroit d'impureté. Vous savez qu'une dame comme ça, c'est tellement impur qu'il faut passer à 2 mètres. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu dis, ah, je t'en prie, c'est une personne comme tout le monde. Ça dépend. Celui qui a vécu dans une saleté, il n'y a pas de problème. Mais celui qui essaie de prendre un certain niveau spirituel, il doit savoir que ce genre de personne et ce genre d'endroit, c'est super tamé. Et comme tamé, c'est les mêmes lettres que atoum. Et atoum en hébreu, ça veut dire boucher. Donc ça veut dire que plus que tu es dans l'impureté et plus que tu es bouché. Donc le fait que tu ne ressentes pas le malaise de l'impureté, ça vient du fait que tu es déjà bouché. Alors que le contraire, l'autre il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sens que l'obstruction des tuyaux est déjà bien entamée. Il est bouché. Tu sens pas le problème. Non, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, elle monte à la Torah en maillot de bain, ça te dérange pas. Et alors? Et alors, si elle fait teshuva, elle a trompé son mari avec 75 mecs, ouais ben, Dieu, il accepte tout le monde. D'accord. Mais toi, tu vas l'épouser? Bon, je vais réfléchir. Pourquoi, chas v'shalom, tout le monde peut faire teshuva? C'est vrai, mais il faut être solide quand même. Surtout que 75, elle t'a pas dit combien de zéros il y avait après. Ah. C'est une chanson. Donc comment tu vas faire? Ça veut dire que ça va être dur de juger positivement un cas pareil. Ouais. Rabbi Yehoshua, il a enlevé les téfilines quand il s'est approché de cet endroit-là. Pourquoi? Parce que là, c'est un endroit de Touma. On ne peut pas amener les téfilines dans un endroit de Touma pareil. Après, le Rav, il a dit, bon, d'accord, mais quand vous avez vu que je suis rentré, parce que normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Le Rav, il est venu pour demander un renseignement. Il tape à la porte, la femme, elle ouvre la porte, plus ou moins habillée. Il lui baisse les yeux, il lui demande, voilà, je voulais te demander, par exemple, est-ce que tu es au courant s'il y a un décret contre les Juifs ou quoi? Est-ce que tu as une conversation avec un grand de Rome qui pourrait nous donner ce renseignement? Ouah, agent du Mossad, Matahari, ou là, ouais. Et elle aurait répondu, et il s'en va. Il n'a pas besoin de rentrer. Pourquoi il rentre? Tout le monde sait qu'on peut pas s'enfermer avec une femme. C'est un yichoud. Alors, à plus forte raison avec ce genre de femme. Ouah, de napalm vivant. Il est rentré. Mais le pire, il a refermé la porte derrière lui. Bon, tu rentres, mais laisse ferme pas la porte. Il a fermé la porte. Il a dit, quand vous avez vu que je suis rentré et que j'ai fermé la porte, qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on a pensé que peut-être que le Rav, quand elle a ouvert la porte, il a vu qu'il y avait un grand de Rome là-bas, et il fallait pas que ça se sache. Et c'est pour ça que le Rav était obligé de rentrer. Pour pas qu'on sache dehors que tel député ou César, il était là-bas. Alors, je suis rentré. D'accord. Quand vous avez vu que je suis sorti et que j'étais au mikvé, qu'est-ce que vous avez imaginé? On peut vous dire ce qu'on ressent vraiment? Allez-y. Regardez ce qu'ils ont été trouvés. Ils ont dit peut-être que quand vous avez parlé avec cette femme, il y a un postillon qui est parti de sa bouche, qui est tombé sur le Rav. Et donc le Rav, il a été obligé d'aller au mikvé pour enlever cette impureté. Rabotai, il fait un effort. Il s'agit de Rabbi Yehoshua. On ne parle pas de Louis de Funès, là. Faites preuve un peu de finesse. Si vous allez me dire, ah là c'est trop, là je peux plus, là. Là, les religieux, ils ont exagéré. Alors, on pardonne tout, alors. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que notre niveau de non-vécu, au niveau de la pureté, il nous a éloigné tellement des dimensions spirituelles élevées qu'on n'arrive même pas à imaginer que quelqu'un, il peut être attaché à des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est un postillon, je t'en prie? Vous savez, il y a eu des... Il y a encore, au Hachem, mais bon, il n'y en a plus beaucoup... des gens d'un tel niveau de pureté qui se sont préservés pendant des dizaines d'années et qui ont atteint un tel niveau de spiritualité que pour eux, un postillon d'une femme comme ça, c'est comme si vous avez des relations sexuelles avec une vache. C'est incroyable. Pourquoi? Je donne un exemple. Un jour, il y avait un rave, toujours je donne cet exemple, il s'appelle Rabbi Yaakov Abersira. C'était un rave, un Marocain, d'habitude. Bon, enfin, un rave, bon, alors... Bon, il y a beaucoup de rabbinim. Et on dit que Rabbi Yaakov Abersira, il faisait attention d'être Noé avec Betahara. Ça veut dire qu'il faisait attention d'appliquer les lois de Tahara. Maintenant, aujourd'hui, de pureté. Aujourd'hui, vous savez que c'est impossible de ne pas être en contact avec un mort. Tout le monde a été dans un cimetière. Tout le monde a été à l'enterrement. Tout le monde est rentré dans un hôpital. Même rentrer dans un hôpital, c'est un problème au niveau de la pureté. Pour un Cohen, par exemple, c'est un problème parce qu'il y a toujours une morgue dans un hôpital. Il suffit que la porte elle soit ouverte entre la morgue et la pièce où elle se trouve, même sur 3 étages, et la personne, elle devient impure. Il y avait même une question à un moment, parce que le métro aérien vers quai de la gare, quai de la Rapée. Vous connaissez quai de la Rapée? Dans le 12e là-bas. Le métro, il passe au-dessus de la morgue. À un moment, ils ont posé la question, est-ce que les Kohanim, ils ont le droit de prendre ce métro? Tu dis, ah, c'est exagéré. Je comprends que pour un juif moyen, et quand je dis moyen, c'est très moyen, ça peut être une question exagérée, mais quelqu'un qui a un très haut niveau, et qui a vraiment une correspondance proche avec les anges. Donc pour lui, l'impureté, ça devient très grave. Alors on raconte que ce Rabbi Yaakov, un jour, il est invité chez quelqu'un à manger. Et puis la maison, elle était un petit peu bizarre. Il y avait la salle à manger qui était en bas, le salon qui était en bas, et la cuisine qui était au-dessus, au premier étage. Et il amène le Rav, il lui fait rentrer, il dit, bon tiens, Rav, asseyez-vous, il y a un fauteuil. Alors le Rav, il s'assoit. Et puis l'autre, il se retourne, il voit que le Rav, il se lève, il va de l'autre côté. Il dit, bon, ben c'est quoi? Il était un peu bon. Après il va là. Ah bon. Après il va de l'autre côté. Ah bon. Et il repart de l'autre côté. Alors il dit, bon, c'est Rabbi Yaakov. C'est Rabbi Yaakov, c'est pas n'importe qui. Son fils, un de ses enfants, il avait en lui la neshama du Harizal. en Gilgoul. Ouais. C'était un monstre. C'est lui qui a béni la mère du Ben Ishraï, et grâce à ça, la maman, elle a accouché du Ben Ishraï. C'est que le Ben Ishraï qui a tout révolutionné, ouais, c'est Rabbi Yaakov qui a béni sa mère. C'était pas n'importe qui. Il voit que Rabbi Yaakov, il part d'une pièce, d'un endroit à l'autre de la pièce, il lui dit, excusez-moi, Rav, il y a quelque chose qui va pas, vous êtes mal ou quoi? Alors le Rav, il dit, bon, je m'excuse de te dire ça, mais je sais pas, il y a une dame au-dessus, là, qui vient d'avoir ses règles, et je peux pas rester parce qu'elle se déplace, et je suis obligé de me déplacer pour ne pas être en dessous de ça. Mais il dit, la dame en question, c'est sa femme à lui, au mec. Et le type, il est pas au courant que sa femme, elle a eu ses règles. Maintenant, l'autre, il monte en courant, il voit sa femme dans la cuisine. Au-dessus de la pièce. Comment quelqu'un, il peut avoir un tel niveau de sensibilité? Pour nous, c'est loin. Je vous dis, nous, on arrive, elle se déshabille, elle se met devant nous, elle s'allonge sur le lit, et on dit, je crois que je vais faire une avéra. C'est-à-dire, regarde ton niveau de sensibilité, c'est-à-dire que tu es proche du coma. Parce que ça fait 3 jours que tu la dragues et maintenant que tu arrives devant la touma totale, tu dis stop, je crois que ma mère serait pas contente. Ou là mon père. L'autre, il a 10 000 kilomètres, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il dit non, il se passe quelque chose ici, il y a quelque chose qui va pas. C'est un niveau de pureté. Maintenant, comment ils ont atteint un tel niveau de sensibilité? Parce qu'ils ont préservé leur pureté à un niveau incroyable. Donc ça, c'est un Rav qui vivait il y a 100 ans. Imagine maintenant Rabbi Yehoshua qui vivait il y a 1500 ans, quel niveau de pureté pouvait avoir? Des gens qui faisaient revivre les morts, comme vous, vous prenez le métro. Comme ça, vous prenez le métro, ça vous arrive, non? Un ticket, mais tu dis, bon, j'ai mon ticket, hop, oh, j'ai mon ticket, hop, oh, j'ai mis le ticket, hop, oh, la porte s'ouvre, tu te rends compte, quel miracle, j'ai mis le ticket, ça s'est ouvert. Eh ben eux, il y avait un type qui mourait devant eux, crise cardiaque, il s'allonge, il fait une bracha, le type, il se lève. C'était normal pour eux. Je dis, la Gemara raconte. Il y avait deux rabbanim à Purim. Ils ont trop bu. Il y en a un, il a pris un couteau, il a rentré dans le ventre de l'autre. Il est mort. Il s'est dessoulé, il voit son copain avec un couteau mal placé. Il dit, mais pourquoi il range les couteaux dans le cœur? C'est pour éviter qu'il rouille, c'est pas un endroit. Ouais. Barabotai, la Gemara raconte, il a prié pour lui, le type s'est levé. Mais il paraît que l'année d'après, il n'a pas voulu passer Purim avec lui. Non, c'est marqué comme ça. Akbar Ramachon, il dit non, c'est bon. Je vais aller dans un endroit plus calme. Ouais. Ça veut dire qu'il faisait revivre les morts. Et ça, c'était des Amoraïm. Rabbi Yehoshua, c'était un Tana. C'est des sommets incroyables. Donc, quand Rabbi Yehoshua, il reçoit un postillon d'une femme comme ça, c'est trop pour lui. Il faut qu'il aille au Mikvé. Mais pour l'élève, c'est une épreuve incroyable. L'Agma, elle dit, et il leur a dit, encore une fois, de la même manière que vous m'avez jugé du bon côté, Hachem aussi va vous juger du bon côté. Et nous, ça nous repose la question, Raudon Kolo, pourquoi? Est-ce que, parce que toi, tu juges l'autre du bon côté, Hachem, il va te juger? Mais quel rapport maintenant? Hachem, il a d'autres questions, il a d'autres problèmes avec toi, que tu manges pas kasher, que tu fais pas les mitzvot, alors il va te condamner pour ça. Non, puisque tu es gentil avec ton copain, hein, Hachem, il va te juger du bon côté, mais quel rapport? Alors, pour répondre à ça, on fait le cours d'aujourd'hui. Mais avant de faire ce cours, il faut d'abord réfléchir à une notion qui est importante. On a dit, la question de base, c'est quoi? Mais qui t'a dit qu'il fallait juger? On dirait, parce que c'est marqué dans le langage des sages, « Ve'avedan et kol ha'adam lekavzechut » Tu dois juger tout homme du bon côté. Sous-entendu que les chachamim ont compris que l'homme, perpétuellement, il juge l'autre. Il juge. Ouais. Alors il dit, si déjà tu juges, tu dois juger du bon côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va regarder déjà le côté psychiatrique du problème, avant de regarder le côté thoraïque du problème. Voyez, on se balade dans le monde, on a des gens en face de nous. Maintenant, le problème, c'est que nous-mêmes, nous sommes en phase perpétuelle de tentative d'existence. Il y a beaucoup de gens, tant qu'ils ne sont pas devenus autonomes au niveau de leur existence personnelle, c'est-à-dire leur pouvoir de se réaliser, ils ont l'impression que l'existence des autres est une agression pour leur propre existence. Est-ce que vous m'avez suivi? Non, je répète. Dès que ça devient intelligent, vous ne suivez plus. Alors, non, je rigole. Je vais juger les caves de route, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai envie d'exister. Le problème, c'est que l'autre aussi, il a envie d'exister. Maintenant, quand quelqu'un il est devenu autonome au niveau de son existence, ça veut dire qu'il a compris qu'il existe parce qu'il doit exister, et il existe parce qu'il peut exister, et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas, et que Dieu ne l'empêchera pas d'exister. Tant qu'il n'a pas atteint cette autonomie, il peut croire, et il y a une illusion d'optique là-dedans, de croire que l'autre, quand il existe, il l'empêche d'exister. Par exemple, ta mère, elle te fait une remarque, tu dis « ouais, elle m'étouffe ». En vérité, non. Elle, elle est elle-même, elle joue son rôle de mère, et toi, tu joues ton rôle de fille. Ou tu acceptes la remarque, ou non. Pourquoi tu le prends comme un étouffement? Parce que comme tu es dans une espèce de passage qui s'appelle l'adolescence ou la post-adolescence, et que tu es en phase d'existence, tant que tu n'es pas autonome, c'est-à-dire que tu ne t'es pas encore rendu compte de ce dont tu es capable, tu as l'impression que l'autre, quand il te donne un conseil, c'est parce qu'il veut aménager une place pour son existence à lui, dans ton existence à toi. Ça va? Ça s'appelle un complexe. Pour ça, ça s'écrit avec un M. Parce que c'est comme... Donc maintenant, tant que toi tu n'es pas convaincu que tu peux exister pour toi-même et que tu as toutes les chances d'exister, donc l'autre pour toi il devient une agression existentielle. Maintenant, puisque l'autre est une agression, donc automatiquement tu rentres dans un jeu de rivalité. Maintenant, dans la rivalité de l'existence de l'autre, comment tu vas faire? Soit tu vas être défensif, soit tu vas être offensif. Alors les gens offensifs, c'est les gens qui vont dire « tout le monde est nul, je vais écraser le monde entier ». Les gens qui sont défensifs, c'est les gens qui vont dire « eh ben tout le monde est bon et moi je suis nul ». Ils sont écrasés par l'autre. Ouais, lui il a de la chance, et puis pour lui c'est facile, et puis lui il a grandi dans un milieu truc. Et ils sont déjà en échec, écrasés comme ça. Il y a le contraire. Les gens qui sont convaincus que pour avancer, il faut écraser les autres. Alors, ils insultent tout le monde, ils cassent tout le monde, ils ont un regard négatif, ils détruisent le monde. Pourquoi? Pour avancer. Je vous ai déjà donné la règle que vous devez écrire en grand dans votre chambre à coucher, qui est très important, il faut la lire tous les soirs avant de dormir. Il y a de la place pour tout le monde. Non, c'est très profond. Hein. Ne prenez jamais à la légère les phrases simples que je vous donne. Elles sont très profondes. Quelqu'un qui arrive à cette autonomie psychiatrique de penser qu'il y a de la place pour tout le monde, il est pratiquement libre au niveau psychologique. Pratiquement, c'est pas fini encore, parce qu'il lui manque tout le côté spirituel. Mais déjà, au niveau psychologique, de comprendre que l'autre, il a de la place, et toi, tu as de la place. Maintenant, l'autre en existant, non seulement il ne peut pas t'empêcher d'exister, mais l'autre, il ne peut pas même rentrer dans ta sphère existentielle. Parce que le degré de pénétration de l'autre dans ta sphère existentielle, elle dépend de ta faiblesse à toi. Donc c'est pas lui qui est fort, c'est toi qui es nul. Alors tu dis, oui, il prend trop de place dans ma vie. Il prend la place que tu lui donnes. Si tu es capable d'avoir ce qu'on appelle en français la dignité et le respect de toi-même, et de dire, toi, moi je commence là, toi tu t'arrêtes là. Maintenant mes pouvoirs ils vont jusque là, ta liberté elle commence là. T'as compris? Ni tu me parles comme ça, ni tu agis comme ça, ni tu me regardes comme ça. Et encore, même là, tu es encore sur la défensive. Mais il y a un moment où ton autonomie, elle fait que tu n'es pas soumis au regard de l'autre, à la réflexion de l'autre, parce que tu es libre. Tant que tu n'es pas autonome, l'autre devient un agresseur. Qu'est-ce qu'on fait en face d'un agresseur? Ou on se défend, ou on s'écrase, ou on attaque. Donc ils disent les chachamim, malheureusement, puisque la majorité des gens n'ont pas atteint cette autonomie, donc ils sont perpétuellement en train de se mesurer à la différence de l'autre. Comment on appelle se mesurer à la différence de l'autre? On appelle ça juger. Parce que juger, c'est le même mot que jauger. Pourquoi tu te sens toujours obligé de jauger? Lui, il est grand, lui, il est fort, lui, il est dangereux, lui, il est pas dangereux. Lui, je l'écrase facilement, lui, je le détruis, lui, je le gère, lui, je le déplace, lui, je l'utilise. Pourquoi? L'autre, c'est pas une machine. Il y a des gens comme ça. Combien il me rapporte? Lui, je peux lui emprunter tant. Celle-là, je peux l'embrouiller, celle-là, je peux... Pourquoi? Elle est là, sa vie. Toi, t'as ta vie. Ouais, mais elle va dire... Vous savez comment ils calculent, les gens? Ouais, mais après, je vais la voir, après, je vais lui dire ça, après, elle va me répondre comme ça, après, je vais lui prendre comme ça, après, je vais lui faire comme ça, après, je vais lui dire comme ça. Arrête de calculer. Sois naturel. Toi, tu dis ce que tu penses. Tu es toi-même. Et l'autre, oui ou non? Tu dis, ouais, mais faut pas être nia parce que tu vas te faire avoir, les gens ils profitent de ta gentillesse. T'as pas compris. Quand le mec profite de ta gentillesse, si t'es entier, si t'es nul, t'es nul, mais si t'es entier, c'est quoi profiter? C'est que l'autre, il continue à rentrer dans les calculs. Mais Rabotai, vous savez très bien que les calculs ne se terminent jamais. Toi, tu dois être intègre, Tu dois être tranquille, tu dois être cool dans ta tête, dans ton cœur. C'est-à-dire, tu dois être entier. Tamim tiyei meshem elokecha. Toi, tu dois être bien, tu écoutes moi. Moi, je suis adulte. Tu comprends? Je suis adulte. Je suis adulte en face d'Hachem, en face de moi-même. Je suis adulte. Maintenant, je te fais une proposition d'adulte. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je crois. C'est tout. Ah, tu crois? Je suis pas convaincu. T'es sûr de ce que tu dis? Et puis, tu t'avances un peu trop. Je répète. Moi, je te dis ce que je pense. Parce que je le pense. Je te dis ce que je crois. Parce que je le crois. Et c'est tout. C'est-à-dire que moi, je me conduis avec toi en adulte parce que je suis plein. Maintenant, si toi, tu es vide, et pour que justifier ton vide, t'as besoin que moi aussi je sois nul, c'est pas mon problème. Je sais pas si vous me suivez. Je vais pas me rendre malade parce que t'es malade. Maintenant, le nombre de malades est assez impressionnant. Je sais pas, vous comprenez. Parce que les gens ils disent, ouais, mais vous vous rendez pas compte, d'être équilibré, c'est vachement, ça vous marginalise. Non. Toi, tu dois être équilibré. Tu dois être fort, tu dois être forte, tu dois être bien, tu dois être construit, tu dois être entière. Et maintenant, le monde, il est le monde. Ah, mais vous savez, quand on est trop comme ça, les gens disent, ouais, pour qui tu te prends? Je ne me prends pas pour qui que ce soit, je me prends pour moi. Maintenant, Dieu, il m'a donné une intelligence, je l'utilise. Il m'a donné un équilibre, je l'utilise. Il m'a donné des capacités, je les utilise. Ah, maintenant, t'aurais voulu que je me prenne pour toi? Tu m'aurais dit, je prends ta place. T'aurais voulu que je me prenne pour mon père? Tu m'aurais dit, c'est du mimétisme. Alors, je suis moi-même. C'est un malheur. Si chacun est lui-même, il n'y a pas de problème. Regardez le billard. Le billard, c'est extraordinaire. Vous voyez le billard? Une boule ici, une boule ici, une boule ici. Eh bien, les boules se croisent, les boules se tapent, les boules rebondissent. C'est un billard. Chaque boule, elle reste dans son intégrité. D'accord? Mais vous prenez 5 verres d'huile, vous les versez dans une bassine. Où sont les verres d'huile? Je reprends mon huile. Je sais pas, elle doit être... En gros, elle doit être par là. Alors toi, t'es quoi, toi? Toi, t'es genre la bouteille d'huile. Tu te mélanges, tu te diffuses, tu disparais. Je suis rien, je suis tout, je suis vous, je suis moi, je suis... Il y a des gens comme ça. Ah, mais c'est de sa faute, c'est pas... Il m'a utilisé, il a fait ce qu'il voulait, elle m'a menti, elle m'a truqué, elle m'a manipulé. Je dis, mais dis-moi, mais t'es quoi, toi? T'es un cadavre? T'es quoi, t'es une carotte? On t'a épluché, on t'a coupé, on t'a fait cuire, on t'a mis des condiments. T'es une carotte? Ah non, mais vous vous rendez pas compte, la puissance de l'amour. Dis-moi que t'étais shooté, je te croirais plus. Je crois pas, je vous ai déjà dit qu'il n'y a aucune mitzvah d'être bête. Il n'y a aucune mitzvah. Maintenant, les gens, ils croient que d'être sincère, ça fait partie de la bêtise. Non, sincère, c'est entier. Maintenant, tant que tu n'es pas entier, ne te mets pas en concurrence. Travaille-toi. Mais si tu comptes sur l'autre pour te rendre entier, mais c'est pas possible, puisqu'il a le même problème que toi, l'autre. Donc automatiquement, il va t'utiliser. Tu dis, mais c'est dur ce que vous dites, ça. C'est qu'on peut pas compter, on peut pas compter. Alors t'attends qu'il te rappelle, t'attends qu'il te comprenne, t'attends qu'il t'aide, t'attends qu'il te pousse, t'attends qu'il évolue, t'attends... Et toi, t'es quoi, toi? T'es un cadavre. Tu dis, moi, j'attends personne. Moi, je suis la personne que je dois être. Je me construis, j'évolue, Dieu m'aide, il m'envoie les épreuves dont j'ai besoin, il m'envoie l'aide dont j'ai besoin, et je deviens moi-même. Quand tu es devenu toi-même, tu fais des propositions d'adultes à des adultes, Baruch HaShem, il y en a, et tu te déplaces dans un monde d'adultes. Maintenant, si tu ne veux pas te conduire comme un adulte, il va falloir que tu trouves des enfants qui comprennent ton niveau de nullité. Tu dis, mais j'ai 35 ans. Je répète, il faut que tu trouves des enfants qui comprennent ton niveau de nullité pour que ensemble vous allez créer un espèce de troupeau de reconnaissance commune d'une nullité réciproque. Tu dis non. Ça veut dire la question, ne t'en prends qu'à toi-même. Ne t'en prends qu'à toi-même, c'est pas la peine de t'énerver. Ouais, les gens ils sont méchants, ils sont pas trucs, ils sont pas à la hauteur, ils s'engagent et ils font pas ce qu'ils disent. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Lui, il a sa vie, toi, t'as ta vie, tout le monde a sa vie. Maintenant, quand on fait une proposition d'adulte, ou l'autre y répond oui, ou l'autre y répond non, c'est son choix. Mais si je prends son non comme une agression, comme un refus de participer à mon évolution personnelle, mais l'autre, il a déjà un problème qui est son évolution personnelle. Maintenant, tu veux qu'il s'occupe de la tienne. Il y a des gens comme ça. Il m'a dit, ah, elle m'a laissé tomber, j'ai envie de la tuer. A priori, c'est un choix qu'elle a. Elle avait le choix de s'approcher de toi, et puis elle a le choix de dire c'est fini. Tu dis non, puisque j'y crois, elle peut pas me dire que c'est fini. Alors, il faut savoir que ton engagement, tant qu'il n'est pas concrétisé sur un mariage et sur des années d'efforts, il n'engage que toi. C'est ta halom. Même Chirac, il a dit. C'est pas valable, mais il l'a dit. Il l'a dit en politique. Il a dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon, c'est un jeu de mots. En politique, ça s'appelle de l'hypocrisie. Mais bon, si lui, il y croit, à la limite, on va dire qu'il est sincère dans son hypocrisie. Qu'est-ce qui oblige un homme politique à dire la vérité? Qu'est-ce qui l'oblige à dire la vérité? Simplement le fait qu'on l'a nommé. Maintenant, s'il n'est pas sûr de lui, on ne peut pas croire en lui. Donc, il est obligé de croire en lui. Maintenant, quelqu'un qui est obligé de croire en lui, il ne croit pas forcément en lui, mais il est bien obligé d'y croire. Donc, en les lisant, à l'Élysée, tu l'as obligé à croire en lui. Ça va? Ça va ou non? Donc, en vérité, puisqu'un jour ou l'autre, on va tous être élus, on va tous être élus. Tu vas être élu femme, tu vas être élu mari, tu vas être élu père, tu vas être élu. La vraie question, c'est est-ce que tu t'es donné le temps de devenir la personne qu'on va élire? Parce que quand l'enfant va naître, tu vas être élu père. Mais si déjà, tu n'arrives même pas à gérer tes petits problèmes personnels et que tu t'engueules avec tes copains comme un gosse de CM2, comment tu vas faire avec le recul qui est nécessaire pour avoir un fils? Déjà, tu te prends la tête parce que l'autre, il t'a pas ramené la voiture dimanche. Je lui avais dit, amène-la dimanche. Il me l'a amené lundi. T'as pas compris. Mais ton copain, il t'a ramené la voiture lundi. Mais ton fils, il va mettre 26 ans pour répondre à tes appels. 26 ans de patience, de calme et d'amour. Sinon, tu vas le tuer. C'est comme ça, non? Donc si déjà tu gères mal ton copain, hein, CM2. Parce que c'est ça, CM2. Comment tu vas gérer ton fils? CE2. Donc c'est exactement pareil. Donc, puisqu'un homme il est perpétuellement en train de se mettre en rivalité avec l'autre, donc naturellement, de toute façon, il juge. Donc puisque là, il juge, alors les Rahamim m'ont dit, puisque tu juges, alors juge du bon côté. Vous avez suivi? D'accord. Alors tu dis, mais même ça, je comprends pas. Parce que quand on dit tu juges du bon côté, qui a dit peut-être je dois te juger du mauvais côté? Alors il y a une question basique qui se pose. Après cette question, peut-être qu'on n'aura plus besoin de continuer le cours. Du coup, vous allez sortir très tôt. Ou alors il faudra répondre à la question, ce qui va prendre du temps. C'est quoi? C'est de dire, attends une seconde. T'as un type devant toi qui a un comportement ambigu. D'accord? On va dire carrément qu'il a fait une erreur. Maintenant, toi, tu as deux solutions. Ou tu dis que le type, il est condamné pour son erreur, ou tu dis que le type peut s'en sortir. Par exemple, quelqu'un, il vole. T'as un copain, il a 8 ans, tu le vois voler. Il a volé. Maintenant, tu es patron, tu as 28 ans, le type se présente devant toi. Et lui aussi, il a 28 ans maintenant. Tu dis, voilà, je cherche un boulot de vendeur. Tu le vois arriver, tu dis, mais... Dans ta tête, tu dis, mais ce type-là, je me rappelle, quand on avait 8 ans... Il volait à la boulangerie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à 28 ans, je vais le condamner parce qu'il volait à 8 ans? Bénéfice du doute. Étant donné que tu tiens une bijouterie Place Vendôme et que tu génères 128 milliards de bénéfices mensuels en diamants purs, tu dis qu'une pierre qui disparaîtrait, ça te ferait de la peine quand même, à 130 000 euros. Donc tu vas le prendre ou tu vas pas le prendre? Tu dis peut-être qu'il vaut mieux que je prenne quelqu'un que je ne sais pas qu'il a été voleur. Donc tu vas dire parce que puisqu'il était voleur, il restera voleur. Vous connaissez le principe, qui vole un œuf devient un bœuf. Alors comment tu vas faire? Ou tu vas dire, mais non, Chas Veshalom, c'est vrai quand il était petit, il était voleur. Mais qui c'est qui n'a pas eu la tentation dans la boulangerie de voler un bonbon? Qui c'est qui n'a pas fouillé les placards? Qui c'est qui n'a pas pris 3 francs dans le porte-monnaie de sa mère? Levez la main. Qui c'est qui n'a pas fait? Alors on est tous des pourris. Ah tu dis on était petits. Ah, c'est bien, tu viens de découvrir que l'homme est un produit évolutif. On peut changer. On peut changer. Mais l'autre, il peut changer. Mais est-ce que moi, je peux lui donner le droit de changer ou non? Je sais pas si vous me suivez. Par exemple, il y a des enfants, je m'excuse de vous le dire, ne vous choquez pas. Il y a des enfants qui deviennent des adultes. Maintenant, comment un enfant est devenu un adulte? C'est très simple. Parce qu'on a appliqué chez lui un principe qui devrait être écrit dans la Constitution, mais qui n'est pas écrit, ce qu'on appelle le droit de devenir. On lui a donné le droit de devenir. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas eu le droit de devenir. Depuis qu'ils sont petits, on dit « Ouais, t'es nul, t'es un gamin. » Eh ben, le mec, tu sais ce qu'il a fait? Il reste un gamin. Parce qu'ils n'ont pas eu le droit de devenir. C'est-à-dire que l'espace que tu crées devant l'enfant pour que l'enfant grandisse s'appelle le droit de devenir. Non, c'est pareil, tu épouses une femme. Elle a le droit d'évoluer. Elle dit « Non, pourquoi? Je t'ai épousé, t'étais Nia, maintenant t'es devenue maligne. » Elle n'est pas devenue maligne, elle est devenue mature. Mais maligne, mature, ça veut dire maligne pour toi. Parce que toi, quand tu peux l'utiliser, ça veut dire qu'elle est baha. Quand elle devient intelligente pour toi, ça veut dire qu'elle veut dire maligne. Elle n'est pas maligne, elle est mature. Ah ben c'est bien, quatre enfants, elle peut devenir mature, c'est pas grave. Donc ton jugement à toi, il est lié au fait que toi, tu as besoin d'utiliser la chose. Alors c'est exactement pareil. Sache que l'homme est un produit évolutif. Donc si l'homme, il a un passé et qu'il a un présent, pourquoi il n'aurait pas un avenir? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand les chachamim, ils ont dit à quelqu'un, il faut juger positivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donne-lui un avenir. Eh ben, c'est vrai, il a un passé, eh ben d'accord, eh ben c'est pas grave. Il a un passé, eh ben au Hachem, il a un avenir. Mais si toi, tu refuses de penser que l'homme, il évolue, parce qu'il était un voleur, donc il va rester un voleur. Ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux mettre son passé au présent. Je vous dis, une fois, une femme, elle est venue chez moi. Elle m'a dit, vous connaissez Madame Intel? Je dis oui. Vous savez, elle est religieuse. Elle a 8 enfants. Une femme religieuse, à perruque, sérieuse, sniout et tout. Très, très bien, ouais. Eh bien, elle était avec moi en terminale. Je dis oui, alors. On était au lycée. Je vous dis, quand elle était en terminale, Madame Latsadeket... À l'époque, il y avait les cours d'éducation sexuelle, et ben, c'est elle qui s'occupait des travaux dirigés. Et tous les garçons de l'école, ils ont pu vérifier qu'elle était fiable. Alors moi, je lui dis, je pose une question, madame. Pourquoi vous me parlez de ça aujourd'hui? Cette femme, ça fait 20 ans, cette histoire. Elle a fait une teshuva incroyable. Elle a fait 3 ans de séminaire. Elle s'est mariée avec un religieux. Elle a fait 8 enfants. C'est une tzadékette que tu pourrais même pas imaginer une seconde qu'elle a pu faire quelque chose dans sa vie. Qu'est-ce que ça peut te faire aujourd'hui, toi, au présent, de me ramener son passé? Elle me dit, Mahas Veshalom, je vous dis ça comme ça. C'est pas pour la salir ou là pour la pourrir. Pas du tout, du tout. Loin de moi. Je dis, mais alors, si c'est tellement loin de vous, pourquoi ça sort par votre bouche? Elle dit, mais je vous dis ça, stam. Comment on dit en hébreu? Stam. Je dis, écoutez, il y a deux choses qui sortent naturellement sans qu'on éprouve le besoin de les faire sortir. Vomir. Il y a autre chose que je ne veux pas vous citer dans la synagogue parce que vous pourriez croire que... Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un truc qui sort dans la tête, ça t'énerve. Pourquoi cette fille qui était une rola? Elle est devenue une sadéquette. Alors qu'est-ce que tu veux le raconter? À qui? À quelqu'un que genre ça va l'influencer? Ça m'influence rien du tout, au contraire. Tu m'as fait un kidouche Hachem. Tu m'as dit comment tu étais, comment tu es devenu. Ça veut dire quoi? C'est que toi t'imaginais qu'une fille comme ça, c'est impossible qu'un jour elle devenir une fille bien. C'est toi, dans ta tête. Tu sais pourquoi tu te penses que c'est impossible? Tu sais pourquoi? Au fond, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que toi, t'as pas réussi. C'est vrai ou non? Une autre histoire que je raconte toujours dans ce cours. Quand j'étais au début, comme ça, au début de l'étude et tout, il y a un type, il est venu me voir. J'étais dans une école religieuse, en terminale. Il est venu, il m'a dit, tu sais ton directeur d'école, le directeur le rav Intel, il était avec moi à Alger en 1900, je sais pas quoi, on mangeait les crustacés ensemble. Il a voulu me choquer. Non, moi je le connais, c'est un sadique. Il nous enseigne, il ramasse des tonnes d'argent pour faire vivre l'école, il passe toute sa vie sur les routes pour être responsable d'un des plus grands réseaux français d'écoles juives. Et maintenant toi, tu veux le pourrir avec ta tête de veau. Alors je lui ai dit, c'est vrai, peut-être qu'à l'époque il mangeait des crustacés, c'est possible. Je dis, mais lui, il a arrêté de manger des crustacés. Il me dit, qu'est-ce que vous insinuez? Je lui ai dit qu'un type comme vous qui marche de travers, c'est qui mange du crabe. C'est impossible. Il a mal pris, il s'est énervé. Comment vous en savez parler, un petit jeune comme ça? Je dis, c'est vous qui avez commencé, Rambotaï. C'est vous qui avez commencé, il ne faut pas agresser les gens qui sont armés. C'est comme ça, c'est connu. Oui. Donc ça veut dire que est-ce que quelqu'un qui a un passé n'a pas le droit d'avoir un avenir? C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça que tu me dis, non? Tu connais un type, c'était un voyou. Il a fait teshuva. On veut le présenter à ta sœur. Tu dis, la pauvre, elle mérite mieux. Mais qui t'a dit? Peut-être que l'autre, il est clean de clean, d'accord, mais il est tellement clean qu'il n'a aucune expérience. Et aucune expérience, ça veut dire qu'à la première venue, il va craquer 3 ans après le mariage, il va partir en fusée, en adultère. Alors que l'autre, il sait où est-ce qu'elle est le mal, il va tout de suite sentir que la fille, c'est une tordue. Il va lui dire, écoute, sors de la maison, s'il te plaît, tu m'impurifies la vie. Dégage. Ah, tu me parles comme ça? Oui, c'est ça, vas-y, va chez le concierge. Va. Alors que l'autre, il verra pas le mal, il dit, écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, nous sommes des gens très ouverts et je la reçois, et d'ailleurs ma femme n'est pas là, tiens, allonge-toi. Il voit même pas le problème. Et il a craqué tout clean de clean qu'il était, monsieur. Ça veut dire quoi, Rabotaï? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de pourrir l'avenir de quelqu'un parce qu'il a un passé. Donc ça veut dire que l'Ekav Zechout, jugé positivement, c'est donner le droit à un avenir. Mais tout le monde a droit à un avenir. Si vous allez me dire, eh ben c'est pas évident. Mais essayez de comprendre. Si Dieu lui donne un avenir, parce que Dieu il aurait pu le tuer, s'il est vraiment tellement pourri comme toi tu penses, puisque toi, en tant que juge à la Cour suprême de la société française, t'as décidé que ce type-là était un tordu. Donc ça veut dire que Dieu il s'est planté. Dieu il a pas vu, toi t'as vu parce que toi t'es malin. Mais Dieu il a pas vu, alors il l'a laissé vivre. Mais toi, tu l'as condamné. Tu dis toi, vous devez mourir. Mais pour qui tu te prends? Vous comprenez ou non? C'est-à-dire qu'on comprend même pas pourquoi est-ce que les Chachamim ont donné un enseignement autant, tellement évident qu'il faut laisser vivre les gens. Mais laisse-les vivre. Mais laisse-les vivre. Moi, je suis agressé par les gens qui ont des opinions sur tout et sur tout le monde. Mais laisse-les vivre. Et celui-là, il est comme ça. Et celui-là, il est pas assez religieux. Et celui-là, il est trop religieux. Et celui-là, il est trop intelligent. Et celui-là, pour qui il se prend? Et celui-là, et il veut prendre la place de celui-là. Mais de quoi tu te mêles? S'il est ouf, qu'Hachem lui envoie une réfauchée les mains. Et s'il est bien, eh ben, t'as qu'à prendre exemple sur lui. Pourquoi tu veux absolument le pourrir? Ah, mais écoutez, j'en sais assez. Je suis au courant. Je ne suis pas dupe. Tu n'es pas dupe, tu es deb. C'est une autre maladie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc l'autre, il a le droit à un avenir. Alors laisse-le avoir son avenir. Tu veux la preuve? C'est que, est-ce que toi, en tant que critiqueur attitré, tu penses qu'un jour, tu vas te sortir de ta phobie? T'espères bien t'en sortir, non? Ou t'enfoncer encore pire? Alors comme toi, si Dieu veut, tu vas t'en sortir. Lui aussi va s'en sortir. Donc quand les Chachamim, ils ont dit, il faut juger l'autre positivement. Mais c'est évident. Puisque comment un enfant, il est devenu un adulte? Ben parce qu'on lui a donné un avenir. Comment une femme, elle est devenue une maman? Parce qu'on a cru en elle. Comment est-ce que toi, t'as réussi des études? Parce que t'as cru en toi. Ça veut dire que le monde entier, il est fait de gens qui se succèdent dans les différentes échéances de la vie. Maintenant, comment on passe d'une échéance à l'autre? Eh ben, ça s'appelle l'évolution. C'est pas la peine d'attendre Halloween pour comprendre. Darwin? Ouais. C'est comme un papillon. Quand vous voyez un papillon, vous n'avez pas de la peine pour la chenille? Vous dites pas, oh la pauvre chenille, tout ça. Oh elle est morte, mais non elle est pas morte, bah, elle est devenue un papillon, elle a grandi, alors un enfant il devient un adulte, pourquoi? Parce qu'on lui a donné le droit de devenir un adulte. C'est tellement dur de laisser exister les autres, pourquoi? Tu crois pourquoi? Parce que toi t'as raison, parce que toi t'es le bon Dieu, non, parce que l'autre quand il existe ça t'agresse, tu dis oh là là mais tout le monde grandit, tout le monde évolue, ça m'énerve. Il y a des gens, tu n'oses même pas leur dire que tu es marié. Tu ne veux pas leur dire le nombre d'enfants que tu as parce qu'ils vont dire, ah, ils ne sont même pas encore mariés. Alors, ils vont mourir. On dit, tu m'as vieilli. Non, je ne t'ai pas empêché de te marier. Ouais, mais tu sais, moi, les filles, ouais, moi, je fais ce que je veux. Bon, maintenant, tu as 38 ans, bah. tous tes copains sont mariés. Toi, tu as ton petit carnet bleu que tu montres à tes copains et tu dis, heck, regarde la liste. Ils appellent ça le... Comment s'appelle le truc de chasse là? Comment en français? Hein? Le tableau de chasse. Le tableau de chasse. C'est pas un tableau de chasteté, c'est un tableau de chasse. Si c'est ça ta vie, c'est un petit carnet. J'ai peur pour lui, s'il perd le carnet. Pourquoi t'es pas marié? Bah écoute, j'ai un tableau de... Ah bon? Preuve écrite, s'il te plaît. Bah écoute, j'ai perdu le carnet, c'est un truc bête. Toute ta vie résumée dans un carnet. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est ce que tu deviens. La vie, c'est même pas ce que tu produis. La vie, c'est ce que tu deviens. On voit ta femme, on voit ce que tu es devenu. On voit tes enfants, on voit ce que tu es devenu. On voit ton équilibre, on voit ce que tu es devenu. Mais tes petits carnets, tes petites blagues, tes petites allusions, tes petits sous-entendus, c'est rien du tout. Ça dépouf, pouf, un nuage de fumée. Voilà, il y a eu le brouillard s'est levé et on voit les ruines. Tu dis c'est ça, c'est ça ton baratin. Hein, ouais, mais tu comprends. Dans un certain contexte, si on sort du texte, il reste le... Non, tu es ce que tu es. Donc non seulement on n'a pas le droit d'enlever à l'autre le droit de devenir, mais on a une mitzvah de développer chez nous le pouvoir de devenir de l'autre. C'est une mitzvah pour chacun. Donc on a un problème maintenant. Pourquoi les chachamim ont dit quelque chose de tellement évident ? Puisqu'on vient de le comprendre en passant par la psychologie. Ça va ? Donc maintenant, il faut qu'on l'explique. Et c'est là que la partie du cours, elle devient longue. Mais pour répondre à ça, d'abord, il faut comprendre une chose. On a demandé, on a dit que, il a dit de la même manière que, enfin, l'Agmar a dit de la même manière que toi, tu as jugé du positivement, Hachem va te juger positivement. Donc on a posé la question, on a dit, mais je comprends, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est le jugement d'Hachem et ça, c'est le jugement de l'homme. Alors maintenant, puisque toi, tu te conduis bien avec l'homme, alors Dieu va te juger positivement, quel rapport ? Alors, si on essaie de regarder un peu la nature du jugement de Dieu, comment Hachem te juge? Alors, c'est marqué à Rosh Hashanah, un homme, il se présente devant Akadosh Baruch Hu, et c'est marqué là-bas, « Ayotzer yachad libam, celui qui a créé leur cœur ensemble, amevin el kol ma'aseem, c'est lui qui comprend tous leurs actes. » C'est-à-dire que la nature du jugement d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas du tout la même que la nature du jugement de l'homme. Comment Dieu nous juge? Quand Dieu nous juge, ça veut dire que Dieu nous mesure. Dieu nous délimite. Mais quelle est la référence de Dieu? Quel est le mode de jugement de Dieu? Quel est le regard que Dieu il a sur nous? Parce que vous comprenez bien que Dieu il a un problème, c'est que Dieu il est perpétuel. Donc premier problème de la perpétuité de Dieu, c'est qu'il va être porté à nous comparer à d'autres personnes qui peut-être sont des dangers pour nous. Par exemple, s'il nous compare à Avraham Avinu, bah laisse tomber. Hein. Tu dis, mais attends, pourquoi pas? Écoute... J'ai acheté une kippa avant-hier. T'as acheté une kippa avant-hier. Tu manges pas kasher. Blineder. Tu mets les téfilines. Oh, je peux pas m'engager. Tu fais Shabbat. Je peux pas. Allez, nous, c'est impossible. Donc Dieu, il a Avraham Avinu et il a toi. Le jugement, il est terminé avant de commencer. Tu dis, ouais, mais il est pas obligé de me comparer avec Avraham Avinu. Il peut me comparer avec Hitler. Ça va déjà mieux. T'es un type sérieux. T'as tué personne. Une fois, t'as écrasé un cafard, mais on ne peut pas te le reprocher. Donc la référence pour te juger, elle va donner ta valeur. Alors qui on va prendre en référence? On est obligé de te prendre à toi. Tu dis, je ne comprends pas. On ne peut pas me prendre moi en référence pour moi. Par exemple, quand vous mesurez un bâtiment, vous le mesurez avec une référence qui s'appelle le mètre. Maintenant, je dis, non, tu sais, la référence du bâtiment, ça va être le bâtiment. Combien il mesure le bâtiment? Le bâtiment. Je dis, mais combien de mètres? Non. Le mètre, c'est la référence du mètre. Le mètre, il mesure le mètre. Mais le bâtiment, il mesure le bâtiment. Ah bon, d'accord. Et comment on va comparer un bâtiment avec un bateau? On les met l'un à côté de l'autre. Compliqué. Donc, il faut une référence qui soit ni l'un ni l'autre. Maintenant, la référence de l'homme, c'est l'homme. Alors, ça s'appelle Amevin el kol ma'aseem. Vous savez pourquoi, dans la vie d'un juif, il y a du hol et du kodesh? Pourquoi il y a du... Des canettes? Ouais, pourquoi il y a du... Pourquoi il y a du hol? C'est-à-dire, pourquoi... Il y a du profane et il y a de la sainteté. On a les mitzvot, on a toutes les mitzvot à faire. Et à part ça, on a la vie. On a le travail, on a les amis, on a le cinéma, on a la télé. On a du chol et du kodesh. Pourquoi Hachem il a mis du chol et du kodesh dans la vie d'un juif? C'est très simple, on n'a pas besoin. Normalement, on devrait être toute la journée en train de faire les mitzvot. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller travailler, d'aller chbébé? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors Hachem, pourquoi il a mis du chol et du kodesh? C'est très simple. Il a mis du chol et du kodesh pour que toi, tu puisses mesurer l'attachement que tu as dans le kodesh selon l'attachement que tu as dans le chol. Par exemple, si tu cours pour aller au cinéma, mais tu traînes des pieds pour aller à la synagogue, c'est significatif d'un certain malaise. Vous comprenez ou non? Si tu t'empresses de souhaiter bon anniversaire à ta voisine et tu oublies celui de ta femme, c'est significatif d'un certain malaise. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que on va te mesurer, on va te juger au niveau de tes mitzvot, écoutez bien, en fonction de ton comportement au niveau du profane. Toi, tu dis par exemple, tu dis bon, va étudier la Gemara. Tu dis, j'arrive pas à me concentrer. Je crois pas que tu arrives à te concentrer au travail. Alors, quelle différence? T'es juif, non? Va étudier. Il faut apprendre l'araméen, c'est une nouvelle langue. Je comprends pas, t'as appris Java. C'est un nouveau langage. Tu parles pas le français, t'as appris Java. T'es devenu JavaScript. Bonjour Java, bonjour. Il y a des gens qui parlent en Java. Bonjour. Ça passe à des programmateurs. Je comprends pas, comment tes parents ils t'ont pas appris le javanais? T'es n'est pas né à Java. Comment t'as fait? Ah ben j'ai appris. Si t'as appris le javanais, tu peux apprendre le guémaré. Tu peux apprendre l'araméen. Tu peux apprendre la Mishnah. Tu peux apprendre la Gemara. Casse-toi la tête, tu vas réussir. Maintenant, les efforts que tu as faits pour apprendre le javanais vont te condamner sur les non-efforts que tu as faits pour ne pas apprendre la Gemara. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme ça. Donc, on va se servir du chol pour mesurer le kodesh. Si je comprends pas, tu es prêt à dépenser 3000 euros pour changer l'ordinateur et tu veux pas dépenser 400 euros pour changer les téfilines. Tu dis, mais c'est une nouvelle génération. Genre qu'avec ça, je peux faire des nouveaux jeux. Je comprends pas, les téfilines, ils te sauvent la vie. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il te perd la vie. C'est quoi ton record? 35 heures. J'ai fait 35 heures avec un copain. On a préparé les coca, la truc, on a préparé les vitamines et tout. 35 heures de jeu, là, comme ça, à plusieurs, je sais pas comment ils jouent à ça sur Internet, là. 35 heures! J'allais mourir, mais je l'ai fait. Je dis, combien de temps tu peux rester devant Dvar Torah? 6 minutes. Je deviens fou, ça m'étouffe, ça me... Et tu sais qu'au Lamaba, il n'y a pas de Game Boy. Hein. Tu vas crever de peur, d'ennui. Tu vas mourir. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Tu rentres au cours de Rabbi Shimon, 2000 ans. Ah, ta santé là pour l'éternité. Ah, comment tu vas faire? Ou alors tu vas dans la partie vidéo du Olam Haba, ce qu'on appelle le Geinam, les feux de l'enfer. C'est un jeu vidéo. Il y a 11 milliards d'anges qui te courent après avec des lance-flammes et toi tu cours. C'est un jeu vidéo. Tu dis, mais il est plutôt idiot comme jeu vidéo. Comme la plupart des jeux vidéo. Ici, c'est un dieu vidéo. C'est une vie d'idiot, quoi. C'est... Il dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'Hachem, il va te juger? Il te dit, il va te juger par rapport à toi-même. Tu dis, mais d'un autre côté, ça veut rien dire qu'on va te juger par rapport à toi-même. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit qu'un homme ne peut pas être témoin ou juge pour quelqu'un de proche, de sa famille. Un karov, quelqu'un qui est indigne de karov, quelqu'un qui est indigne de proximité familiale. Tu ne peux pas être ni juge ni témoin pour lui. Tu ne peux pas témoigner pour ton père, contre ton père. Tu ne peux pas témoigner ou juger ton père ou ton frère ou ta sœur. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Karov, Adam Karov. Donc il y a un digne de Negia, il y a un digne d'intérêt qui fait que tu ne peux pas juger négativement ou positivement quelqu'un dont tu es proche. D'accord? Mais la Gemara dit pourquoi? Parce que Adam Karov, un homme est proche. Mais la Gemara dit, aval Adam Karov et Tselasmo, un homme est proche de lui-même. Ve'en Adam Roe Chovale Atzmo, et un homme ne se voit pas de défaut à lui-même. Donc si un homme ne peut pas témoigner contre l'autre qui est proche parce qu'il est proche, comment quelqu'un il peut témoigner sur lui alors qu'il n'y a pas plus proche que lui de lui? C'est une question. Alors on te dit, on va te demander de te juger toi-même en aveugle. Comme par exemple au bac. Vous savez, au bac, la copie, elle est aveugle. Ça veut dire, sur le côté, vous marquez votre nom, vous le pliez comme ça et vous devez corriger la copie. Maintenant, c'est possible qu'un examinateur, il tombe sur la copie de son fils. Si le fils ne lui a pas fait un petit signe sur le côté. Comme son père s'appelle Shmaya, donc il a dit avec l'aide de Shmaya. Ouais. Donc, il va corriger la copie de son fils sans le savoir. Maintenant, poussé encore à l'extrême, le type, un jour, peut-être, il va tomber sur sa propre copie. Il a passé le CAPES, mais il fait partie des examinateurs du CAPES. Il retombe sur sa copie. Imaginons qu'il l'a tapé à l'électronique et qu'on a changé le truc. Est-ce qu'il est capable de se juger lui-même? La Gemara, elle dit, tu sais comment on va faire? Tu vas arriver là-haut à 120 ans. On va te donner un dossier. On va dire, qu'est-ce que tu penses de ce mec-là? Et tu vas le juger. Et quand tu auras fini de juger, Dieu, il va dire, eh ben, le type, c'est toi. Maintenant, comment tu l'as jugé, toi? Vous savez, ça s'appelle Olam HaEmet, ça s'appelle le monde de la vérité. Donc là-bas, il n'y a pas de baratin. Ici, on peut dire, je pense ça, mais je dis ça. Je croyais, mais je sais. Je rigolais, c'était pas ce que je voulais dire. Là-bas, il n'y a pas. C'est aller simple. Chaque fois que tu dis, à chaque fois que tu fais, à chaque fois que tu penses, c'est aller simple. Ça s'appelle Olam HaEmet. Donc, ce que tu vas être là-haut, c'est ce que tu es. Vraiment, ça va? Ça va. Maintenant, toi, tu te dis, comment je vais être jugé là-haut? Je vais être jugé là-haut comme moi, je juge, puisque moi, je vais me juger moi-même. Maintenant, comment je me juge moi-même comme je juge? Comment je juge? Comment je juge les autres? Maintenant, ta manière de juger les autres, elle va te montrer comment tu vas être jugé toi-même. Alors maintenant, t'es quel genre plutôt toi? T'es plutôt le genre intransigeant ou t'es plutôt le genre cool? T'es plutôt le genre à donner la chance à l'autre ou t'es plutôt le genre à défoncer l'autre? Maintenant, dans celui qui défonce, je parle pas du méchant, vicieux, tordu, celui-là, il faut lui souhaiter une réfoua chez les mains. Il y a des gens qui pensent que pour éduquer, il faut serrer, il faut casser. Il y a des gens comme ça, ils disent, moi, tu sais, moi, je les casse, et quand ils touchent le fond, ils rebondissent. C'est une façon de faire, ce qu'on appelle la balle. Tu prends une balle, tu la jettes, quand elle arrive par terre, elle remonte, c'est vrai. Ça, c'est si t'as pas fait d'erreur de jugement. Mais si c'est pas une balle, c'est un œuf, il va pas remonter. Il y en a, ils attendent. Il dit, mon fils n'est pas remonté. Je lui dis, dégage, pourriture, crève! Eh ben, lui, au lieu de descendre en ascenseur, il est descendu par la fenêtre. Il n'est pas remonté. Alors, je vous le demande, monsieur le juge. Suis-je coupable? Vous n'avez pas jugé que votre fils était un œuf. Vous avez pensé que c'était une balle. Il y a des gens qui rebondissent, il y a des gens qui ne rebondissent pas. Donc quand tu prends le risque de l'envoyer par la fenêtre, vu les constatations que Newton avait déjà faites de son vivant, tu prends un certain risque. C'est marqué ici. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux savoir vraiment comment on va te juger là-haut, simplement, il suffit que tu te regardes toi-même comment tu juges les autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Or, il y a un principe. On dit « Atzadik ro'e et atov sheba adam »« Aracha ro'e et ara sheba adam » Le tzadik, il voit le mal qu'il y a dans l'homme. Non, le contraire. Le tzadik, il voit le bien qu'il y a dans l'homme. Le racha, il voit le mal qu'il y a dans l'homme. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui voient le mal et des gens qui voient le bien? Pourquoi il y a des gens qui critiquent tout le temps? Pourquoi il y a des gens qu'à chaque fois que tu leur trouves une solution, tu dis « oui, mais ». Et à peine ils ont dit le « oui » et ils recommencent le « mais ». Pourquoi quand tu les aides, ils s'enfoncent eux-mêmes? Pourquoi il y a des gens qui aiment la position par terre, qui aiment la gadoue, qui aiment la sciure? Pourquoi? Mais c'est trop facile, et vous ne vous rendez pas compte. Et puis c'est pour vous, c'est simple. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans leur trajectoire existentielle, ils ont choisi la position confortable de l'échec plutôt que la position inconfortable du combat. Et c'est vrai que c'est confortable, t'es par terre, t'es allongé dans un lit d'hôpital et tout le monde vient te dire « comment tu te sens ?» Mais si tu vas très bien, que les médecins disent que tu vas très bien, que ton bilan est positif, donc les gens ils vont pas te dire « comment tu te sens ?» Ils vont te dire « tu sais, ça fait quand même 17 ans que t'es à l'hôpital, faudrait y aller. Oui, mais tu comprends, je me sens pas tout à fait sûr de moi. Tu joues la balle, là. Faut marquer ton but, là. Tu joues le ballon. En bataille, c'est pas chaud. C'est-à-dire que si la maladie, c'est une invitation à se reposer, la santé, c'est une invitation à se défoncer, faut y aller, là. Donc maintenant, comment tu fais, toi? Comment tu regardes, toi? Est-ce que toi, tu regardes du bon côté et tu donnes à l'autre la possibilité d'y arriver? Ou toi tu dis non, 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 il est foutu, il est pourri, il est détruit, il est incapable, il est... Pourquoi tu vois le mal? Pourquoi tu vois le mal? Tu sais pourquoi tu vois le mal? Imaginez quelqu'un, il revient de vacances. Il dit, écoutez, je comprends pas. J'ai filmé pendant toutes les vacances, j'étais en Afrique, j'étais en Thaïlande, j'étais en Israël. Et quand j'ai branché sur le magnétoscope, quand j'ai voulu regarder le film de mes vacances, partout où j'ai été, il y avait un point noir en plein milieu. J'étais au Kotel, il y avait un point noir. J'étais en Thaïlande, il y avait un point noir. Il y avait un point noir partout. Vous vous rendez compte, c'est un phénomène parapsychique. Monsieur le rabbin, qu'en pensez-vous? Je dis, écoutez, moi, au niveau parapsychique, je pense qu'il n'y a rien de grave. Mais au niveau technique, je pense qu'il doit y avoir une tache sur l'objectif et qu'il faudrait nettoyer la tache. Exactement pareil. Quand quelqu'un y voit le noir partout, il doit savoir que, en fin de compte, c'est une négation qu'il contient et qu'il projette autour de lui. En psychiatrie, on appelle ça diffuser la mort. Il y a des gens qui diffusent la mort. Ils portent la mort et ils diffusent la mort. On analyse, on appelle ça la rhumma. Il y a des gens comme ça. Là où ils vont, la rhumma. C'est dur, ça va pas, ça ira pas, ça marchera pas. Tu portes la mort, tu diffuses la mort. Parce que toi, tu t'es condamné, parce que toi, tu t'es pourri, alors tu penses que le monde, il est pourri. Le contraire. Qu'est-ce qui fait le tzaddik? Comment le tzaddik, il s'en est sorti? Faut vous la réveiller. Comment le tzaddik, il s'en est sorti? Parce que le tzaddik, lui, il a cru dans la lumière qu'il y avait en lui. Maintenant, le rachat, comment il s'est planté? Parce que lui, il s'est désespéré de la lumière et il a cru dans l'obscurité qui était en lui. Maintenant, Rabotai, nous tous, nous contenons de la lumière et de l'obscurité. Alors, la lumière, on appelle ça l'espoir, et l'obscurité, on appelle ça le désespoir. Alors, je vous avais donné cette règle déjà. Ça aussi, vous pouvez noter pour les gens qui prennent des notes. Il faudra qu'un jour, tu te désespères de ton désespoir. Maintenant, tant que tu croiras dans ton désespoir, c'est-à-dire tu croiras dans ta position de victime, tu croiras dans ta position de petite fille, de petit garçon qui est protégé par sa grande maman, tu ne pourras pas t'en sortir. Par contre, le jour où tu vas te désespérer de ton désespoir, tu trouveras l'espoir. On appelle ça le yush en hébreu. Il faut être mitya'esh minayush. Il faut désespérer du désespoir. Coupez-le, ça ne me dérange pas. Hein? Je sais, moi, c'est les kafsrout, c'est normal. Il m'énerve, il veut que je rate le cours. Donc qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un, il arrive à comprendre qu'on a tous une négation en nous. Maintenant, ou on la cultive, ou on lutte contre. Maintenant, celui qui a atteint son autonomie au niveau de la lutte contre la négation, donc maintenant, il voit le positif. Comme il voit le positif chez lui, il voit le positif chez les autres. Mais celui qui n'a pas réglé ses problèmes personnels de paranoïa et de schizophrénie, c'est-à-dire que chez lui, le Yetzer Hara est dominant, automatiquement, puisqu'il est en perpétuelle crise de déception personnelle, donc automatiquement, il est déçu par le monde entier. Parce que si déjà lui, il n'a pas réussi, personne ne peut réussir. Ce qu'on appelle la diffusion industrielle de la nullité personnelle. Il y a des gens comme ça. Ça va? Donc, Atzadik Roé Tatov, le Tzadik qui voit le Tov, parce que lui, il a trouvé le Tov en lui, alors il arrive à trouver le Tov chez les autres. Et Tov, ça veut dire entier. Vous rappelez toujours que Tov, ça veut dire bon, et bon, ça veut dire complet. Mais l'autre, il est incomplet. Alors, puisqu'il est incomplet chez lui, alors tout le monde est incomplet. C'est un mélange entre la susceptibilité et l'orgueil. Si moi, je suis nul, tout le monde est nul. Parce que si moi, je n'ai pas réussi, qui c'est qui va réussir? Donc, c'est de l'orgueil. D'autre côté, c'est de la susceptibilité. Parce que je suis nul. Alors, t'es nul ou t'es bon? C'est compliqué, toi. C'est marqué ici. C'est pour ça que c'est marqué Kol haposel bemumo posel. Tout celui qui rend pasoul, c'est-à-dire qui rend inapte quelque chose, il rend inapte avec sa propre inaptitude. C'est-à-dire celui qui voit les défauts chez les autres, c'est qui contient ses défauts. On dit en français le chameau ne voit pas sa bosse. D'accord? Mais il voit toujours la bosse de l'autre. Maintenant, pourquoi tu penses à la bosse de l'autre? Parce que tu es bossu. Et il a fallu que tu bosses pour y arriver. Ouais. Pourquoi? Parce que cette lutte-là, pour voir le positif. C'est un travail. Alors, c'est quoi la démarche pour y arriver? La démarche est très simple. C'est que, je vous ai déjà dit plusieurs fois, que Dieu, il a créé un univers avec, d'après les scientifiques, 100 milliards d'étoiles. Donc, puisqu'il y a 100 milliards d'étoiles et qu'il y a 6 milliards d'habitants sur la Terre, il aurait pu nous mettre chacun sur une étoile, il y avait de la place, même d'en avoir 5-6 chacun. Alors, pourquoi il nous a tous mis sur la même planète? Jusqu'à preuve du contraire, la seule planète où il y a des êtres vivants, c'est la planète Terre. Oui? Alors, pourquoi on est tous sur la même planète? À tel point que ça devient l'enfer. Tu te lèves, il y a l'autre. Tu te couches, il y a l'autre. Il y a l'autre qui fait du bruit, il y a l'autre qui t'énerve, il y a l'autre qui grandit, il y a l'autre qui évolue, il y a l'autre qui bouffe, il y a l'autre qui respire. Tu te rends compte qu'il y a presque plus d'oxygène dans le monde et qu'il y a d'autres mecs qui respirent. Tu sais que la vie, c'est, le monde, c'est devenu un grand sous-marin. Donc quand tu vois l'autre qui respire en face de toi, il est en train de te bouffer ton oxygène. L'autre, il fait une vidange de voiture, il est en train de polluer l'eau de tes enfants. T'as pas envie de le tuer? Tu dis, mais enfin, shalom, on est tous dans un monde, si ce monde est une galère, on est tous dans une galère. T'as raison. Mais quand même, tu dis, mais bouffe ma vie. Alors, il te la bouffe ou il te la bouffe pas? Ça veut dire que l'autre, en vérité, c'est une épreuve. Si Dieu nous a tous mis dans le même monde, c'est une épreuve. Maintenant, réfléchissez. Dans le type d'épreuve qu'on peut rencontrer dans sa vie, est-ce que l'épreuve physique, l'épreuve mentale, l'épreuve psychologique, elle est plus éprouvante avec l'autre ou avec la matière? Par exemple, quelqu'un, il marche. Il marche. Il glisse, il tombe par terre. Ah! Oh! Il se tape le par terre, le derrière par terre, ça fait très mal, parce qu'il pèse 80 kilos, donc il a subi une pression de à peu près 48 kilos sur son derrière. Est-ce qu'il va en vouloir au par terre? Est-ce qu'il va venir tous les matins maudire le par terre? Est-ce qu'il va venir la nuit avec un marteau-piqueur pour éclater, déchirer le par terre? Non. Mais si, il fait une partie de foot avec des copains, et qu'il y a un copain, il voulait taper dans le ballon, manque de peau, il rate le ballon, et il réussit le but de l'année, et il te tape le derrière. Toi, tu vas dire, t'as fait exprès, je suis sûr, je te connais, t'es... Pourquoi t'en veux au type qui t'a mis un coup de pied dans le derrière, alors qu'il t'a fait subir exactement la même pression que le parterre? Alors, pourquoi t'en veux pas au parterre? Alors, quand quelqu'un te fait du mal, tu dis, autant pour lui, et tu le maudis. Et quand c'est toi qui te fais du mal parce que tu tombes par terre, tu dis quoi? Autant pour moi. Alors pourquoi quand c'est l'autre, tu prends pour lui, et quand c'est toi, tu prends pour toi? Tu dis, mais je vais pas m'engueuler avec le par terre. Mais dans l'absolu, je vous ai déjà dit que dans l'absolu, nous vivons tous dans des sphères différentes, et que la capacité de l'autre de pénétrer dans ta sphère dépend de la place que tu as laissée. Par exemple, la véra, par exemple, la bêtise, ou par exemple, la dépendance. Quand tu es dépendant de l'autre, quand tu fais des fautes qui méritent des punitions, ou quand tu fais une ouverture, c'est toi qui fais rentrer l'autre chez toi. Donc, dans l'absolu, si l'autre, il est chez toi, c'est que tu as quelque chose à voir avec. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant que l'autre, il est devenu le bâton avec lequel Dieu t'a frappé, il faut être croyant. Mais toi, non. Toi, t'es pas croyant. Donc, puisque t'es pas croyant, donc tu t'engueules avec ton copain, mais pas avec le parterre. Mais t'as pas compris. Si la vie, c'est une grande école du devenir, et que l'épreuve que tu as avec l'autre, elle est 100 fois plus puissante que l'épreuve qu'on a avec la matière. Donc, la matière, c'est puissant, mais au niveau remise en cause, c'est beaucoup moins puissant que l'autre. Donc, comment tu vas grandir? Grâce à la matière ou grâce à l'autre? Par exemple, tu mets un stylo sur une étagère, il glisse, il tombe. Tu mets un stylo, il retombe. Tu le mets, il te retombe. Tu le mets, il retombe. Tu casses le stylo, tu casses l'étagère. Je pense que soit le stylo est rond, soit l'étagère n'est pas droite, soit une conjonction des deux raisons. Maintenant, tu as une épreuve entre toi et l'étagère. Maintenant, tu dis quelque chose à quelqu'un, il fait le contraire. Tu dis, il fait le contraire. Tu fais... Comment tu vas faire? Tu vas casser le type? Alors, je vis le problème. L'objet n'existe pas. D'accord? On l'a déjà expliqué plusieurs fois. L'objet, il est, mais il n'existe pas. Parce qu'il n'a pas de potentiel de se réaliser, donc il n'existe pas. Toi, tu es confronté à un objet. Maintenant, la série d'épreuves qui sont nécessaires pour que toi, tu évolues, Dieu te les a calculées au départ. C'est-à-dire que quand on vient au monde, toutes les épreuves qu'on va subir sont déjà prêtes. Tu dis, mais c'est abominable! C'est comme ça. D'accord? Maintenant, toi, si tu gères l'épreuve, tu assumes l'épreuve, elle te fait grandir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu es un diamant brut, et pour tailler ce diamant, la vie, c'est une série de coups de marteau, ou de polissage, ou de douceur, pour tailler le diamant. Maintenant, l'épreuve, c'est un décapsuleur de potentiel pour toi. Maintenant, l'épreuve, elle prend différents visages. Elle prend un visage technique, à l'école, un visage théorique, tu apprends à réfléchir, un visage réel dans ton travail, et un visage encore plus concret dans les personnes que tu côtoies. Maintenant, l'épreuve la plus grande, c'est la personne. Maintenant, le pouvoir de remise en cause qui est contenu dans la personne qui est en face de toi, toi, par rapport à elle, ouais, c'est une école de ton devenir. Donc, rappelle-toi que les gens qui sont proches de toi, ce sont des gens qui sont là pour te faire évoluer. Maintenant, la réciprocité dans le devoir d'évolution, c'est que de la même manière que eux sont nécessaires pour toi, toi, tu es nécessaire pour eux. Donc, c'est pas par hasard si tu as épousé ce type-là, tu as épousé cette femme-là, tu dis « mais elle m'énerve ». Ça veut dire quoi, elle t'énerve? C'est-à-dire elle t'oblige à évoluer. Elle t'oblige à grandir, elle t'oblige à changer. Maintenant, la personne qu'on rencontre, elle est automatiquement adaptée à nous puisque c'est Dieu qui fait les rencontres. Le problème, c'est si elle, elle est adaptée à toi, est-ce que toi, t'es adapté à elle? C'est pour ça que des fois, les gens ils te disent, ah ben, chétri, ne le prenez pas mal. Je crois en Dieu, je suis croyant. Mais, comment se fait-il que la pire des filles en cauchemar que j'ai imaginé, je l'ai épousée? Je la voulais grande et belle et blonde et intelligente et cultivée. Et les petites baha et grosses et brunes et bêtes et lourdes. Pourquoi? Et j'étais fou amoureux. On est resté un an ensemble. J'étais fou amoureux. J'étais à la choupa fou amoureux. J'étais aveuglé. Et un jour, quand elle m'a dit son tour de taille, je dis alors, je dis écoute, c'est ta femme. Oui, t'as fait la choupa. Oui. Vous avez des enfants? 3. Bon. Alors maintenant, il faut que tu réfléchisses. Qu'est-ce qu'elle fait en face de toi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle fait en face de toi? C'est une épreuve pour toi. Les personnes les plus proches, encore une fois, si la vie c'est un cahier d'exercice et que les épreuves avec les personnes sont beaucoup plus éprouvantes que les personnes avec la matière, donc ça veut dire que les gens qui sont en face de nous sont nos professeurs d'évolution. Maintenant, c'est quoi l'énervement? L'énervement, c'est le signifiant de la non-adaptation. Donc le calme, c'est le signifiant de l'adaptation. Donc les personnes qui t'énervent sont là pour te faire évoluer. Si je vois compris, je te répète. Les gens qui t'énervent sont là pour te faire évoluer. Donc c'est quoi un cauchemar? C'est quoi un cauchemar? Un cauchemar, c'est quelque chose qu'on refoule. Maintenant, ce qu'on refoule, en général, c'est ce qu'on ne veut pas assumer. Donc ce que tu n'as pas assumé en tant que célibataire, qui donc était ton cauchemar, tu l'as épousé, parce que si tu l'avais assumé, tu n'aurais pas eu besoin de l'épouser. Donc, puisque tu ne l'as pas assumé, tu l'as épousé afin que tu l'assumes. Mais si tu l'avais assumé en tant que célibataire, tu n'aurais pas eu besoin de l'épouser pour avoir à l'assumer. Donc, tout ce que tu refoules, tu le rencontres en face de toi, en pleine tête. Tu vas me dire, mais c'est dur ce que vous dites. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ça va? Mais c'est dur. Au contraire, c'est une invitation à assumer. Mais si déjà en soi-même le principe d'assumer, c'est une agression pour toi. Parce que toi, tu fuis la responsabilité, tu fuis la maturité, tu fuis les choix, tu fuis les décisions, tu fuis la compréhension, tu fuis la réflexion. Toi, tu voudrais vivre dans un monde gentil, sympathique, what? Émission de télé. Que quand on a marre, tu zappes. Mais la vie, tu peux pas zapper. Tu peux pas zapper ton mari, tu peux pas zapper tes enfants, tu peux pas zapper ta femme, tu peux pas zapper tes responsabilités, tu peux pas zapper ton âge, tu peux pas zapper ton corps. Donc, puisque tu peux pas zapper, faut que t'assumes. Mais c'est dur. On finira jamais le discours. Tant que tu ne rentreras pas, entre guillemets, dans ta peau, et que par prolongement, tu rentreras pas dans ta vie, et que par prolongement, tu rentreras pas dans tes responsabilités, ça sera toujours lourd. Tu me dis, c'est un cauchemar. Si tu es mature, ça s'appelle un rêve. Et si tu es immature, ça s'appelle un cauchemar. Maintenant, pour être adapté à ta réalité, il faut que tu l'assumes, cette réalité. Maintenant, assumer la réalité, c'est accepter la différence entre ce que tu es et ce que tu dois devenir. Numéro 1. Numéro 2, accepter que l'autre, il est pour toi une école du devenir. Et numéro 3, passer l'épreuve. Maintenant, quand tu as passé l'épreuve, tu dis, oh, c'est rien du tout. Ça s'appelle le bonheur. C'est quoi le bonheur? Baruch HaShem. On s'est battu avec ma femme. Mais Baruch HaShem, maintenant, on est mature. Mes soucis, les soucis avec les enfants. Mais Baruch HaShem, aujourd'hui, j'ai des adultes en face de moi. Mais Ahmad, t'as pas compris que t'as évolué en même temps que tes enfants? Mais business, c'est pareil. Ouais, d'être honnête, ça rapporte pas. Vaut mieux magouiller. Regarde, celui-là, il embrouille, celui-là, il embrouille. C'est vrai qu'il embrouille. C'est vrai, il gagne de l'argent facilement. Et c'est vrai, il a tout gagné. Maintenant, il a le loyer gratuit pendant 20 ans à la santé. Il a éclaté la bourse. Tu te rends compte? Un petit délai d'initié. Un petit délai d'initié de rien du tout. Et maintenant, Baruch HaShem, il est initié à la vie carcérale. Dans toutes ses facettes les plus intimes. C'est la folie. Alors tu voulais être un initié, voilà, t'es initié. Toi, tu voulais être honnête, tu dis, c'est dur d'être honnête. Honnête, c'est dur. L'URSSAF, les impôts, l'embrouille, l'impôt forfaitaire, le truc, les déclarations, les... Oh, c'est dur. C'est vrai, c'est dur. Mais sur le long terme, ça tient la route. La structure, elle est posée. Quand tu as posé la structure, tu construis. Mais si tu démarres dans l'embrouille, eh ben, au HaShem, ta boîte, elle a 4 ans. C'est bien. Et vient l'inspecteur. Ces 19 000 euros dépensés en une soirée qui correspondent avec la bar mitzvah de votre fils, dois-je comprendre qu'il s'agit d'un abus de biens sociaux? Compliqué. C'est logique, c'est une boîte saine. C'est une boîte saine. Eh bien, elle continue sainement. Tu es une personne saine, tu continues sainement. C'est un couple sain. Il continue dans la sainteté. Mais si tu commences un peu dégueu, tu commences à l'arrière de la voiture, à la soirée, après la boîte de nuit, tu penses que ça va aller loin, votre couple? Écoute, tu sais, on s'est tellement aimé qu'au bout d'une seconde, on a compris qu'il fallait qu'on ait une relation sexuelle. Même les animaux, ils vont pas aussi vite. Tu vas me dire, ouais, mais nous, on est plus intelligents que les animaux. Toi, ça n'a pas un instinct, tu as deux instincts, toi. Détends-toi. Construire, apprendre, développer, remettre en cause, accepter, transformer, évoluer. C'est des mots qu'il faut employer si tu veux construire ta vie. Non, no speed, kiff, cool, kaf, bof, pouf, paf, paf. Et après, par terre. Heureusement qu'on a des expédients chimiques pour nous aider à assumer toute cette nullité. Quoi, ta vie, un mégot? T'attends la fin du mégot? T'as l'air de quoi comme ça? Mais regarde ta tronche, mais prends une photo, dis à un copain de te filmer. Regarde ta tronche, mais t'as l'air de quoi là? Regarde-toi. Regarde ta tronche. Des fois, je regarde le pétard, je crois qu'il est plus intelligent que toi. Tu vois, mais c'est dur, mon père m'a jamais aimé. Ton père, il t'a pas aimé, mais ça t'a pas obligé, toi, à te pas t'aimer, toi. Il y a même des fils de nazis qui sont devenus des psychologues. Comment ils ont fait? Ben, ils ont appris à évacuer la haine que leur père contenait. Ton père, c'est pas un nazi. Bon, un naze peut-être, mais pas un nazi. Alors, parce que ton père, il était condamné, toi. Et il m'a pas donné la tendresse. Mon psy m'a expliqué que comme il m'a pas donné la tendresse, alors j'ai trouvé la tendresse artificielle. Dis-moi, il est pas dealer, ton psy? Ton père t'a pas donné la tendresse. Ton père, c'est un malade. Ton père, c'est un fou. Et toi, tu vas t'en sortir. T'as eu la pire des jeunesses et t'as eu la pire des enfances et tu vas t'en sortir. Pourquoi tu vas te condamner? Pourquoi t'as pas d'avenir? Pourquoi tu t'es pourri? Ouais, mais tu crois que c'est facile quand t'as rien à bouffer et que t'as un père alcoolique et une mère. T'es né ou non? T'es né. T'as deux pieds, deux jambes et un cerveau. Allez, dégage. Je sais que c'est plus confortable. Je sais, c'est plus facile, c'est plus à l'aise. C'est impossible.
Tu n'as même pas le droit de l'imaginer que tu peux le penser. Alors comment tu vas faire? Ben c'est simple. Tu vas être mekabel et tahaim be'ahava. Tu vas accepter la vie avec amour. C'est quoi la vie? La vie, c'est l'autre. Akadosh Baruch Hu t'envoie des outils. Eux, c'est des outils pour toi et toi, t'es un outil pour eux. Donc les gens nerveux, ils vont rencontrer des gens qui les énervent jusqu'à ce qu'ils deviennent calmes. Les gens déprimés, ils vont rencontrer des choses qui les dépriment jusqu'à ce qu'ils arrivent à dépasser leur déprime. Les gens intelligents, ils vont rencontrer des gens bêtes qui vont les rendre encore plus intelligents. Les gens bêtes, ils vont rendre des gens intelligents pour qu'ils acceptent l'intelligence de l'autre en dépassant leur complexe de bêtises. Rabotai, c'est un mélange, vous ne pouvez pas imaginer. Akshbukhum et Zavek Zivugim. Hachem, il crée des couples. Les couples, c'est pas seulement la personne que tu épouses, c'est tous les gens que tu rencontres. Maintenant, est-ce que tu es capable d'apprendre de ces gens-là ou tu n'es pas capable d'apprendre de ces gens-là? Si tu apprends de l'autre, tu vas évoluer. Mais la plus grande école, c'est l'autre. Parce que de la même manière que l'autre, il existe, de la même manière l'autre, il peut t'aider à exister. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à exister malgré que l'autre existe? C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois, les gens qui s'énervent quand ils ne voient pas les autres évoluer, c'est parce qu'au fond, eux-mêmes n'ont pas évolué. Parce que celui qui a évolué, celui qui sait ce que ça coûte au niveau remise en cause, orgueil, travail sur soi, acceptation, fermer sa grande bouche de... Celui qui a fait cet effort-là, et il sait que c'est dur. Donc quand l'autre il voit que l'autre il peine, il dit bah, c'est normal, c'est difficile. Mais celui qui s'énerve quand l'autre il peine à évoluer, pourquoi ça l'énerve? Parce qu'il dit à l'autre, mais pourquoi t'es nul? Pourquoi t'évolues pas? Pourquoi? C'est pourquoi il n'a pas de patience pour les autres? Parce qu'il n'a pas eu de patience avec lui-même. Alors il dit à l'autre, fais comme moi, fais semblant. Mais celui qui s'est esquinté à montrer l'Everest, il sait que c'est dur, donc il ne fait pas le fanfaron. Ça va? Donc les gens qui vous disent que c'est facile, ne les croyez pas. Ouais, mais ça fait plaisir quand même d'imaginer que c'est facile. Tu vois l'autre, il dit, il gagne 1 million de francs par concert. Mais avant de faire ça, mon frère, par quoi il est passé? Combien il a écrit? Combien il a truqué? Combien il a pleuré? Combien ils étaient au départ? Combien ils étaient arrivés? Combien il y en a qui sont pendus en route? Pour tout ça, pour être un Leicester, ça veut dire une star. C'est pareil, tu vois, un type, il est là, ouais, il roule dans une Porsche, et il a une boîte et 400 employés. Et les cheveux blancs, et les nuits blanches qu'il a passées HEC, et les nuits blanches qu'il a passées là-bas, et ça. Mais t'es fou, toi, ou quoi? Si le mec, il dit c'est facile, faut pas le croire. S'il dit que c'est facile, c'est que c'est un voleur. Même les hold-up, il les prépare. Donc quand un type, il te dit, oh, tu sais, en fin de compte, c'est facile, hein, tu viens, t'as un produit, tu l'exportes, tu le reçois, tu le diffuses, et puis bon, et tu touches. Il n'y a rien de facile, Rabotai. Et s'il a encore les cheveux noirs, c'est qu'ils sont blancs à l'intérieur. C'est comme ça. Parce que ce qui est facile, ça ne te fait pas évoluer. Or, comme le monde, il a été créé pour que tu évolues, c'est impossible que tu évolues avec facilité. Et Lama, tu as reçu l'héritage. L'héritage, ça ne fait pas évoluer. Bien mal acquis, ne profite jamais. C'est impossible. Donc, si toi, tu as envie de devenir et que tu as compris que c'est ça le but de la réalité, donc tu vas profiter de l'autre pour ça. Maintenant, comment est-ce que tu vas évoluer grâce à l'autre si tu vois le négatif de l'autre? Impossible. Donc, encore une fois, on a dit qu'on est jugé devant Dieu par rapport à soi-même. La propre référence, c'est soi. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde chez toi? Comment tu juges les autres? Maintenant, pour juger les autres, quand tu t'entraînes toute ta vie. Maintenant, l'autre pour toi, c'est une épreuve pour apprendre à juger l'autre. Mais en apprenant à juger l'autre, tu apprends à te juger toi-même. Parce que vous avez bien compris maintenant que celui qui est capable de regarder l'autre positivement, eh ben, il va être aussi capable de se regarder lui positivement. C'est-à-dire que la chance que tu donnes à l'autre d'évoluer, c'est la chance que tu vas donner à toi d'évoluer. Donc celui qui croit dans l'autre, il peut croire en lui. Donc celui qui ne croit pas dans les autres, il ne peut pas croire en lui. Alors tu t'étonnes qu'il est tout le temps négatif. C'est normal. Vous avez compris ou non? Ça veut dire une chose incroyable. C'est marqué dans la Gemara, dans Yoma. Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol pesha'av. Celui qui est ma'avir al midotav, c'est-à-dire on a des droits, on a des moyens, on a des pouvoirs. Si quelqu'un il dépasse ses moyens, il dépasse ses pouvoirs, quelqu'un me marche sur les pieds, je dis rien. Quelqu'un il me doit de l'argent, j'accepte de prendre patience. C'est mes droits. Si je suis capable de passer sur mes droits, Akadosh Baruch Hu, il m'efface mes avérotes, il m'efface mes fautes. Vous dites, mais quel rapport? Ça, c'est un rapport avec l'autre. Je prends sur moi. Et ça, c'est un rapport avec Dieu. Maintenant, avec Dieu, j'ai fait des avérotes. Et voilà que l'autre, maintenant, il me fait une crasse. Et moi, je dis rien. Alors Dieu, il dit, puisque toi, tu dis rien quand l'autre, il te fait une crasse. Alors moi, je t'efface tes avérotes. Mais quel rapport? C'est deux comptes différents, comme on l'a dit au départ. Alors, il faut comprendre une chose. Si on dit que c'est un monde de tikkun, c'est un monde de réparation, alors comment ce monde-là, il nous répare? Comment il nous répare? Alors regardez dans l'autre monde, en regardant dans l'autre monde, vous allez comprendre ce monde-ci. C'est marqué, tout celui qui fait le Kriat Shema et qui est Medagdek Beotiot, celui qui lit le schéma en faisant attention à chaque lettre, Mafiginlo Geinam, on lui refroidit son Geinam, son enfer. C'est quoi l'enfer? Les gens, ils croient à l'enfer, l'enfer. Ils croient que c'est une boîte dans le 8e arrondissement. Pas du tout. Ça, c'est un préliminaire. C'est un couloir pour arriver à l'enfer. L'enfer, d'après les commentaires, ça s'appelle... Bon, il y a beaucoup d'explications, mais là, on va dire l'extrait. C'est... L'enfer s'appelle Olam Achisaron. C'est le monde du manque. C'est quoi l'enfer? Les gens, ils croient à l'enfer. Des flammes et une rôtissoire et un micro-ondes. Tu mets la tête dans le micro-ondes et le corps dans la rôtissoire. Une horreur. Rabotai, l'enfer, il est en nous, mais il n'est pas révélé. Quand est-ce qu'il va se révéler? Le jour où on va enlever ce qui l'empêche de se révéler. Comme un révélateur. Ça veut dire quoi? C'est que, imaginez maintenant quelqu'un, il est drogué, d'accord? Il prend ses 2 grammes par jour de cocaïne. Et un jour, il n'y a plus de cocaïne. Il tombe sur une île déserte, il n'y a pas de cocaïne. Il y a des cocotiers, il y a des noix de coco, il n'y a pas de cocaïne. Il fait le tour de l'île, l'île elle fait 23 mètres de périmètre. Il tourne, il y a un palmier au milieu. Il devient fou. Il tape le mur, il mange le palmier, il croque la mer, il monte au ciel, il trace des traits sur le mur. Il ne peut plus. Mais il n'y a pas de cocaïne. Maintenant, d'où elle vient sa souffrance? C'est qu'il est prêt à tuer pour ça. D'où elle vient sa souffrance? On appelle ça la dépendance. Mais à quoi? La dépendance au besoin de combler un manque. Mais d'où il vient le manque? C'est toi qui l'as créé. Alors imagine-toi, l'autre, il avait un manque de tendresse. Il a comblé le manque de tendresse avec la cocaïne. Maintenant, il faut qu'il comble le manque de la cocaïne. Donc, il n'a plus de problème de tendresse. Mais il a un manque de cocaïne. Alors maintenant, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il prend une dose, en même temps qu'il comble la dépendance, il augmente la dépendance. Donc, il augmente la dose. Donc, il devient de plus en plus dépendant. Jusqu'à la fin, qu'il devient entièrement un paquet de cocaïne. Vivant. Comment c'est possible? Rabotai, c'est pareil. Ce monde-ci, c'est un monde de matière. L'autre monde, c'est un monde d'antimatière. Maintenant, comment quelqu'un va être adapté à de l'antimatière s'il est nourri de matière? Donc, la seule manière de devenir indépendant de la matière, c'est de devenir indépendant de la matière. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'il y a des manques. Ce n'est pas la peine de les combler, puisque plus tu les combles, plus ils augmentent la dépendance. Donc, la seule manière de combler un manque, c'est de le sublimer. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu passes devant une pâtisserie, tu vois un gâteau. Il faut que je le mange. Après, tu le manges, tu dis, oh, ça m'a fait du bien. Je l'ai mangé. Le lendemain, tu repasses devant. Il faut que je le mange. Bon, maintenant, tu pèses 118 kilos. Tu fais 1m21. Et tu as 7 ans et demi. Donc, tu vas chez ton médecin ou ton déménageur, un des deux. Il y en a un des deux qui t'a amené. Et le médecin, tu dis, écoute, pourquoi à chaque fois que tu arrives devant la boulangerie, tu dis, c'est vrai que quand j'arrive devant la boulangerie, j'ai envie de manger ce gâteau. Mais quand je l'ai mangé, ça me fait du bien. D'accord. Alors le médecin, il te dit, il y a deux solutions. Soit on va trouver un système pour que les gâteaux ne te fassent plus grossir, soit on va trouver un système pour que tu n'aies plus besoin du gâteau. Alors je répète la question. Est-ce que on doit combler les manques? Ou est-ce qu'on doit dépasser les manques? Maintenant, comment on peut dépasser les manques quand on est convaincu qu'il faut les combler? Compliqué. On vit dans un monde de manque. Je ne parle pas de la société de consommation qui exploite, qui titille notre besoin de combler perpétuellement le manque. Mais le Maharal, lui, il n'a pas attendu la société de consommation pour comprendre. Il dit « L'érolam adam haser » un homme est toujours manquant. On est manquant. Celui-là, il nous manque la bouffe, celui-là, il nous manque l'argent, celui-là, il nous manque le bonheur, celui-là, il nous manque le prince charmant, celui-là, il nous manque une case. Chacun, il lui manque quelque chose.
L'erreur, c'est quoi? C'est de croire qu'on est là pour combler les manques. Alors tu vas au magasin et tu dis, quand vous aurez cette télé, tout ira mieux. Quand vous irez en vacances, ça ira mieux. Quand vous aurez cet appareil, tout ira mieux. Quand vous aurez ce téléphone, tout ira mieux. Tu as le téléphone, ça va pas mieux. Tu as changé de coiffure, ça va pas mieux. Tu mets un jean serré. Tu te demandes s'il y a quelqu'un dedans, ça va pas mieux. Pourtant, on t'a dit, avec ce jean-là, tu vas faire fureur. C'est vrai. Tu les as fait fuir à 100 à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu es là en train de combler des manques. Mais toi, tu dois sublimer un manque. Donc la seule manière de t'apprendre à sublimer les manques, c'est de te mettre en situation de manque et que tu dépasses le manque. Celui qui a fait ça dans ce monde-ci, rabotaille, et qui a dépassé dans ce monde-ci la dépendance du manque de la matière, il va au Gehinna. Il va au Gan Eden. De peu, hein. Il va au Gan Eden. Celui qui n'a pas réussi à faire ça, avant d'aller au Gan Eden, il va aller au Gehinna. Souriez, vous êtes au Gehinna. D'accord. Donc, maintenant, c'est quoi le Gehinna? Ça s'appelle Olam Achisaron. De la même manière qu'on ne peut pas te, comment dire, pour la drogue, te désintoxiquer. Te désintoxiquer. Sinon, en te mettant en situation de manque. Jusqu'à ce que tu crèves du manque, que tu acceptes le manque et tu dépasses le manque. Donc, dans ce monde-ci, tu apprends à dépasser le manque. Si tu n'arrives pas à dépasser le manque, quand tu vas arriver au Gehinam, tu vas garder, après ta mort, tu vas avoir les mêmes manques. Le problème, c'est que dans l'autre monde, il n'y a pas de quoi combler les manques. Ou hello, petite cigarette, ah, cigarette. Ah, nego, ou hello. Petit café noir, pas de café noir. Un petit décolleté, pas de décolleté. Oh. Ou hello. Donc, tu vas crever. Donc, le Gehinam, il est où? Il est en toi. Qui c'est qui l'a amené? Toi. C'est quoi? C'est ta dépendance. Maintenant, quand le Gehinam, on dit que ça s'appelle le monde du manque, Ça veut dire que le mode d'éducation de la lutte contre le manque, c'est le manque. Mais compris. Donc maintenant, chaque mitzvah, elle a un yetzerara. Le yetzerara, on a dit, c'est comme le veau d'or avant d'atteindre un résultat. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour grandir quand il y a le yetzerara? Ou on le comble ou on le sublime. Si vous essayez de combler le yetzerara, je vous dis tout de suite, il manque pas d'appétit. Donc, il faut le sublimer. Quand vous le sublimez, vous dépassez le manque. Quand vous dépassez le manque, vous changez. Maintenant, c'est quoi le Yetzirah du Kriyat Shema? La lecture du schéma, c'est quoi? Un texte que vous lisez deux fois par jour depuis votre bar mitzvah et que vous lisez depuis le Talmud Torah, depuis que vous avez l'âge de 6 ans. Vous le connaissez par cœur. C'est quoi le Yetzirah? Le lire vite. Schéma. Emet. T'as fait le schéma ou t'as roté? Je sais pas, j'ai... Donc, puisque le Yetzirah, c'est de le lire vite, c'est quoi la mitzvah? De le lire doucement. Shema Yisrael. Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. Tu dis, attends, je vais pas faire le schéma comme ça. Je vais finir la prière à Mincha. Je vais finir Shachari. Il faut faire bien le schéma. Maintenant, c'est dur de faire le schéma comme ça. Oui, c'est vrai. Mais la Gemara, elle dit, celui qui fait bien le schéma... qui lit lettre par lettre, on lui refroidit son Gehinam. Tu dis, mais quel rapport avec le Gehinam? Ça, c'est plus tard. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Avera? La Avera, c'est quoi? C'est impulsion, d'accord? Action. T'es excité, truc. T'as envie de manger, tu manges. Et la bracha. Oh, oh, j'ai oublié de faire la bracha. De toute façon, c'est pas grave, c'est une quiche de porc. Oh. Sur le port, on fait pas de bracha. Ouf, mais on est qui pour aujourd'hui? Oh, je crois que j'ai gaffé. Oui. T'as un peu gaffé, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois comprendre que la différence entre un homme et un animal, c'est que l'animal, c'est impulsion, action, et l'homme, c'est impulsion, réflexion, si possible, décision, action. Maintenant, cette capacité de lutter contre ton impulsion et pour l'empêcher de devenir simplement une action, on appelle ça la lutte contre le Yetzer Hara.
On appelle ça sublimer un manque. On appelle ça s'auto-éduquer à devenir une personne indépendante. Maintenant, puisque l'autre, c'est une épreuve pour toi. Donc l'autre qui te met perpétuellement à l'épreuve, ouais, il t'oblige à passer impulsion-action. Donc tu t'énerves, tu l'insultes, tu te bagarres avec lui. Mais quand tu arrives à accepter, toi, les exigences de l'autre, et peut-être même les erreurs de l'autre, les efforts que ça t'a demandé au niveau de la sublimation de ton orgueil et de tes intérêts personnels, ça t'a tellement remis en cause que ça a éteint chez toi le feu de l'orgueil et tu es devenu une personne patiente. Or, cette personne patiente, elle a cassé l'impulsion action. Or, l'impulsion action, c'était celui de la Avera. Donc, comme tu as cassé chez toi le mode impulsion action, ce qu'on appelle la Teshuva, maintenant, tu as refroidi ton Gehinam. Donc, quand tu as envie de faire le schéma vite et que tu le fais doucement, tu refroidis le Gehinam. Et quand quelqu'un t'énerve et tu t'énerves pas, tu refroidis ton Gehinam. Et quand quelqu'un te parle méchamment et que tu lui réponds gentiment, tu éteins ton Gehinam. Et quand quelqu'un vient en retard et tu dis rien, tu éteins ton Gehinam. Mais quand tu t'énerves et tu prends à cœur et tu l'éclates et tu le déchires et tu le maudis et tu le pourris et tu le tries. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes au côté animal qui est en toi une amplitude qui remplit tout ton corps. Donc, tu deviens extrêmement combustible. Tu te prépares à faire le jeu du charbon. Toute seule. Ou là, tout seul. Personne t'a rien dit. Ça va? Donc, ça veut dire que l'autre, non seulement c'est l'école du devenir, mais l'autre, c'est l'école du Gan Eden. Donc, maintenant, on a dit, juger positivement, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est d'accepter que l'autre, il peut changer. C'est d'accepter que toi, tu peux changer. Maintenant, comment toi, tu vas t'éduquer à devenir quelqu'un d'indulgent? Parce que tu vas accepter la différence de l'autre. Maintenant, quand toi, tu es devenu indulgent avec toi-même, parce que tu as compris les efforts que ça te demande d'évoluer, tu deviens indulgent avec les autres. Quand tu es indulgent avec les autres, c'est comme ça qu'on va te juger. Quand tu arrives là-haut, on va te juger positivement. L'Agmar, elle a dit, de la même manière que toi, tu m'as jugé positivement, Hachem va juger positivement. Maintenant, c'est pas une récompense. C'est le fruit d'une évolution personnelle. Maintenant, puisque toi, tu as changé ta nature et que Hachem, il te juge selon ta nature et que ta nature est différente, donc toi, maintenant, tu vas être jugé positivement par Dieu. Donc, la Gemara, elle a raison. Elle donne des occasions très difficiles de juger positivement. Et malgré ça, vous avez jugé positivement. Donc, Hachem, il a compris que votre nature, elle est positive. Maintenant, comment ça marche maintenant? Que l'épreuve elle-même, elle t'a aidé à grandir. L'épreuve, elle t'a aidé à devenir. Donc l'épreuve, elle n'est pas là pour que tu plonges, l'épreuve, elle est là pour que tu grandisses. Maintenant, si toi, tu l'assumes, cette épreuve, elle devient l'école du devenir. Donc ça veut dire que tu auras des milliers d'épreuves et que les personnes les plus proches, c'est elles qui vont te le mettre le plus à l'épreuve. Or, ceux qui te mettent à l'épreuve, ça peut devenir ton paradis ou ça peut devenir l'enfer. Si tu utilises les gens qui sont proches pour grandir, l'autre, ça devient le paradis. Si tu subis la différence de l'autre parce que tu n'arrives pas à assumer, l'autre, ça devient l'enfer. Ça va? Donc, quand on a dit, avec Dan et Kol, Adam, les Kavzuchut, il faut juger l'autre positivement, vous avez bien compris, que c'est pas ni être nia, ni être bête, ni être gentil, ni tout laisser passer, ouais. Ça veut dire que dans ta dignité, dans tes droits, et dans ton devoir, toi, dans l'absolu, devant Akadosh Baruch Hu, tu laisses l'autre vivre, comme Hachem, il a laissé l'autre vivre, et entre guillemets, tu utilises l'autre pour évoluer et pour grandir.